Bonjour et bienvenue dans Carte Blanche, petit échauffement d'avant Podren. À vous.
Bonjour.
Ouais, bonjour.
C'est pas parce qu'on enregistre depuis la deuxième fois cette intro. Je suis bien accompagné avec l'habitué Nemo.
Ouais, il paraît que je suis venu 5 fois.
T'es venu 5 fois exactement.
5 fois.
Attends, ouais. Nous avons
5 sur 12.
Nous avons Shoutan. Comment ça va Shoutan?
Bien, ça va. Moins 50% sur le Shoutan. Moins 50%.
Et bien sûr, tout doit disparaître avec Elion. C'est
ouais,
ça.
Je raconte déjà des conneries.
Ouais, bravo.
Je dois être fait
comment
pour ce métier.
Va, première
ça
fois que
bien,
tu fais
merci.
Un podcast.
Non, privé de vacances une fois.
Ah, bah ouais, c'est pas un podcast privé de vacances.
Ah, si, ouais, je te laisserai pas dire ça.
Oh.
Si, c'est un podcast quiz. Mais c'est un podcast quiz.
Un pod quiz.
Alors, comme on le disait il y a 3 minutes avant que je vérifie que l'enregistrement a sauté, mais j'ai mis une petite alerte.
Mais dès que Shoutan est là, c'est
dès que Shoutan est là, c'est ta
faute. Ouais, c'est pour ça, vaut mieux pas que je vienne trop souvent. En fait.
Nemo, tu es venu le plus souvent dans l'émission. Ouais. Je faisais les stats durant 5 fois sur 12.
Et du coup, tu m'as castré.
C'est ça, et on va en reparler justement. Shoutan, t'as pas eu de soucis de son? Bah, bien sûr que si.
Bah, évidemment.
C'est ta faute.
Évidemment.
Et voilà.
Et moi, j'ai rien eu, donc c'est ce que je disais. Voilà. Je suis fait pour ce métier.
Oui, oui.
Ouais, c'est le nouveau
qu'on soit payé.
Tu vas voir, je stresse un peu. J'ai un petit peu les fesses qui vont bravo, mais tout va bien se passer. donc, plein de petites choses.
Ce sont les aléas du direct.
On est en live hein, sur baladedirect.fr.
C'est-à-dire que si on dit caca, les gens l'entendront.
Les gens entendront effectivement dire caca. Ouais. Voilà, donc merci Gandalf.
Donc, hein. Il vaut mieux éviter de le dire, du coup.
Oui, voilà, caca.
Je suis en train de tester un petit boîtier USB pour récupérer les flux audio. Enfin, bref, c'est de la tambouille de live.
Attention,
j'espère que le son est bon.
Il fait passer de l'audio et il le ressort en USB.
Le son est bon.
Les podcasteurs le détestent.
Alors, est-ce qu'on va parler de Podren? Parce que j'ai parlé d'échauffement pré-Podren.
Ouais,
bon,
on peut en parler, ça dépend de
cette émission. Cette émission va normalement sortir après Podren. Donc,
ah oui,
on peut dire que tout s'est bien passé.
Ah ouais, tout s'est bien passé.
C'était nickel.
À part les 5 euros qu'on doit toujours au mec
non,
de l'année dernière.
C'est 10 euros maintenant.
Ah, c'est 10 euros.
Trop de projets. Hein.
Non, mais en fait, je peux raconter la blague.
Oui,
ou
vas-y.
En fait, Maxao, qui gérait le camion l'année dernière, avec péremptoire ici présent, ils ont dû rouler un peu plus que ce qui était prévu, et le mec leur a demandé un peu plus que ce qu'ils avaient. Mmh. Et alors que nous, on était tout contents, parce que Podren 2017, c'était super bien passé.
Bien
on était en mode, le bilan est hyper positif, et Maxao nous envoie un message. Alors par contre, petite note négative, il manquait 5 euros et tout, on était en mode, ah putain.
Alors qu'on a proposé au mec, bah, si vous voulez, au bout de la rue, on va tirer des sous.
Ouais,
tout,
Maxao lui a dit, je vous suce si vous voulez, mais non, pas moyen. C'est...
Ouais,
alors Maxao, que pourtant, pourtant Maxao, j'ai entendu dire,
ouais.
Il en aurait eu pour plus que 5 euros le mec.
c'est déjà parti. Ça part déjà dans des sphères. Et Lyon, tout va bien?
J'ai l'impression d'être au boulot.
Oui, ça va.
Si tu veux, Lyon, je te vends des photos de Maxao en costard, c'est fantastique.
Je vous rappelle le principe parce qu'on va un petit peu travailler, on va redevenir un petit peu sérieux. Podren s'est très bien passé maintenant au travail. voilà. Donc vous avez.
Bon, c'est qu'en parlant de Podren, moi aussi j'ai les fesses qui font clac-clac pour le coup.
Donc vous avez allègrement pioché dans plusieurs thèmes. Il y avait jeux vidéo, séries, films, livres, musique.
Quand on se fait
et
pas
au
censurer.
Final, on va parler de quoi? Alors, on a un livre, il me semble,
ouais.
Nemo.
Mémé de Philippe Torreton, 2014.
Je l'ai pas amené là. Du cinéma, qui a du cinéma? C'est toi, Elion.
C'est moi.
De quoi tu vas nous parler?
De Die Hard 1, 2, enfin 6. Enfin, de tout, quoi. Enfin,
de Bruce Willis dans
Die Hard
2.
Il y a
6 Die Hard.
Et tout
ça en 6ème de prévu, oui, monsieur.
En 40 secondes.
On a que 40 secondes?
On a un gros dossier jeux vidéo. Bon, alors là, qui va commencer? Shooten, tu commenceras par le jeu vidéo?
Bah oui, du coup.
Alors, de quoi tu veux parler?
Alors, je vais parler de Secret of Mana.
Yes, le nouveau.
Le
nouveau.
Les deux, c'est un peu...
Ça va être un peu compliqué.
Voilà,
j'ai vu que t'as 3 pages, je te laisse.
Deux pages et demie.
Elion, tu as un jeu, toi aussi?
Visiblement, c'est sur son téléphone.
Ouais, sur son téléphone.
Je dénonce.
C'est Snake, c'est ça?
C'est Overwatch mobile, voilà, c'est
Overwatch,
ça. C'est nouveau, ça vient de sortir.
Donc, on va parler d'Overwatch, on terminera avec Nemo pour les jeux vidéo.
Voilà, on parlera de Horizon Zero Dawn sur PS4.
Et aussi encore Shooten qui va nous parler de séries après.
Oui, des reboots vitaminés de MacGyver et,
ben j'ai très...
et Hawaii 5.0.
J'ai très hâte d'entendre ça, enfin pour MacGyver. Hein. Oui. Et on terminera doucement avec les trucs en plus. Hein. Oui. Je vous propose de commencer tout simplement avec les bouquins. Hein. On a un petit peu de Bernard Pivot dans cette émission. C'est parti, ça va être à toi Nemo.
Bonjour Jean-Pierre.
Salut William.
Quoi de neuf Jean-Pierre aujourd'hui?
Alors pour Bouquin Matin, j'ai sélectionné pour vous un bouquin qui s'intitule Guerre et Paix et c'est édité chez Plon. Alors l'histoire est toute simple, c'est l'histoire de la guerre et de la paix.
Oui.
Et c'est Tolstoï qui l'a écrit.
C'est à toi Nemo.
Oui voilà, alors comme péremptoire m'a interdit...
Alors oui c'est vrai, parlons-en, on a oublié de le dire.
Ouais. Oui, d'accord. Péremptoire m'a interdit de ramener quoi que ce soit qui vienne du Japon. Ce qui fait que j'aurais pas le droit de vous parler de Girls Last Tour ou de Yuru Camp, mais je le fais quand même là. Non, je vais vous parler plus sérieusement d'un bouquin qui s'appelle Mémé de Philippe Torreton. Ce bouquin, c'est pas ma grand-mère, c'est ma mère qui me l'a foutu entre les pattes en mode tu vas kiffer. Et effectivement, j'ai kiffé.
Lis autre chose que des mangas.
Mais oui, je lis autre chose que des mangas, faut pas croire. Et donc, c'est un bouquin.
Il lit l'Express par exemple.
Ouais, oui, oui. Quand j'ai
envie. Et les Échos aussi.
Voilà, c'est-à-dire quand j'ai besoin de me vider l'estomac. Du coup.
En regardant BFM.
En regardant BFM et Dominique Seux. Du coup, je sais plus ce que je dis. Oui, Mémé, c'est un bouquin qui raconte exactement ce que son titre laisse entendre, c'est-à-dire que la grand-mère de Philippe Torreton est morte au moment où il a écrit le bouquin, et il rappelle tout simplement ce que c'était que sa vie. C'est 150, 170 pages, on va dire. C'est pas une lettre d'amour, c'est pas un truc qui est empreint de, on va dire, d'une nostalgie un peu dégueulasse à la Pernod en mode c'était mieux avant du temps de ma grand-mère. Mais c'est véritablement, ça raconte ce qu'était sa grand-mère. Oui, tiens, t'inquiète, tant qu'on y est. À la bière, à traquer la grand-mère de Philippe Torreton.
À la bière et à ceux qui l'ont fait.
Voilà.
Et
pour dire une chose, c'est un bouquin qui est très très bien écrit. Au début, j'avais un peu peur en lisant ce bouquin parce que j'avais vraiment l'impression que ça allait être du 13h de TF1, quoi. C'est-à-dire la France d'avant, c'était mieux. Quand il n'y avait pas toute cette voilà, toute cette petite technologie. Enfin, toute cette technologie, c'est de la merde. La chrétienté, c'est bien, mais absolument pas. C'est une nostalgie sans les regrets. C'est absolument dingue. Alors, c'est un bouquin qui se lit très très bien. Philippe Torreton, c'est trouver des formules qui fait que c'est facile à lire et en même temps que c'est hyper émouvant. Je peux vous dire que quand j'ai lu la fin. Où la fin, c'est véritablement l'adieu à sa grand-mère qui est sur le lit d'hôpital. C'est très, très émouvant. Je sais pas trop comment, voilà, c'est vraiment, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le côté, comment parler de ses ancêtres, comment parler de cette grand-mère avec qui il a une relation, assez exceptionnelle, et comment parler du temps qui passe, comment parler des gens qui résistent au temps qui passe, comment parler des gens qui avaient peu de moyens et qui arrivaient à vivre quand même. Donc voilà, c'est en fait, si jamais vous ne supportez pas le côté un peu réac, très classique en France, voilà, avant, quand il n'y avait pas... voilà, c'est un peu tout ça. Bah, cette grand-mère-là, c'est
le titre avec marqué en gros la menace.
Voilà, c'est ça. Trois petits points. Et ben voilà, cette grand-mère-là, c'est quelqu'un d'extrêmement modeste. C'est une la modestie des grandes femmes, etc., des grandes femmes du quotidien. Et je sais pas trop comment le décrire. Il fait vraiment, avec peu de mots, énormément de choses. Et c'est ce qui m'a marqué. J'ai pas grand chose de plus à dire. En fait, c'est dommage que j'ai pas le livre parce que j'ai dû le rendre à mes parents pour être tout à fait honnête. Et il y avait une phrase que j'avais gardée de côté que j'ai perdue. C'était genre, quand tu es né, tu n'avais pas grand chose. Toute ta vie, tu n'as eu que le nécessaire. Et quand tu es mort, tu n'avais plus que l'indispensable. C'est exactement ça. Mais c'est vraiment même si vous n'aimez pas lire, le bouquin est très court, il se lit très bien. Vous pouvez picorer dedans. Ça, c'est agréable. C'est-à-dire que le Torreton a mis tous ses souvenirs de sa grand-mère dedans, mais il les a pas forcément mis dans un ordre chronologique. Ça a dû être une galère à écrire ce bouquin parce que c'est comme quand vous essayez de vous rappeler quelqu'un que vous aimiez bien ou quand vous essayez de vous rappeler un événement que vous aimiez bien, il y a tous les souvenirs qui se mélangent. Donc c'est un bordel et lui a réussi à trouver un ordre.
T'as l'impression de réécrire une histoire qui...
Voilà, qui n'a pas d'ordre chronologique forcément. Et il parle un peu tout, il parle des gens qui se sont éloignés de sa grand-mère, et il parle du temps où lui aussi a dû partir. Et il y a un moment fantastique, c'est le moment où il raconte quand lui commence petit Normand, quoi, qui est monté à la capitale, qui est devenu un grand acteur.
Petit bonhomme.
Et qu'elle a dû venir le voir dans son théâtre. Alors, imaginez cette femme qui vit dans sa vieille maison, qui vit avec très très peu de moyens, devoir monter à Paris dans les années 80-90. C'est un voyage qu'elle comprend même pas, en fait. C'est deux mondes qui se rencontrent. Mais, lui, il voulait que sa grand-mère soit là en loge, etc. Enfin, et tu sens bien que le moment où il explique le jour où il a joué devant sa grand-mère, c'est un des plus grands jours de sa vie parce que Mémé est là. Et il utilise toujours ce terme, Mémé, Mémé, Mémé. Mémé. C'est pas la grand-mère, c'est pas mamie, c'est Mémé et c'est vraiment elle. Et il y a des moments donnés où on se dit ça peut être un peu niais. Ça l'est parfois, mais il y a vraiment des grands, grands, grands moments quand il raconte la vie de sa grand-mère. Donc voilà, je vous conseille, ça s'appelle Mémé, c'est écrit par Philippe Torreton. On pourrait se dire que Philippe Torreton est juste un acteur, mais non, là, c'est vraiment...
Oui,
c'est
vraiment qu'il écrivait au final.
C'est vraiment un auteur et c'est vraiment un excellent bouquin, peu importe ce que vous pensez d'ailleurs de Torreton. Au passage, c'est pas quelqu'un que j'aime forcément. Surtout,
il a joué dans le vulnérable Banlieue 13, voilà.
Ouais, mais bon, président de Banlieue 13.
Mais voilà.
Super bien, Banlieue 13.
Mais non, mais ouais. Capitaine Conan, par contre, c'est vachement bien.
Voilà. Mais peu importe ce que vous pensez de lui au final de sa carrière, c'est vraiment un très grand bouquin, surtout si vous avez eu une grand-mère ou qu'elle soit encore vivante ou pas. Mais voilà, ça fait appel à des sentiments très humains et c'est extrêmement bien dit. J'aurais adoré écrire ce bouquin, malheureusement j'ai pas eu sa grand-mère, mais grâce à ce bouquin j'ai un peu l'impression de la connaître et franchement
c'est un peu la grand-mère qu'on aimerait tous avoir.
Pas forcément en fait, elle a ses défauts aussi, ouais. Mais c'est vraiment.
Et c'est pas un portrait.
C'est pas une hagiographie, clairement. Ouais. C'est clairement pas. C'est pour ça que c'est bien. C'est pas une hagiographie ni du personnage ni de l'époque. C'est-à-dire on vous présente sa vie, on vous explique pourquoi cette femme est formidable et à quel point par exemple le curé qui pense au moment de l'enterrement pensait faire un enterrement on va dire classique s'est retrouvé avec plein de monde à gérer d'un coup parce que cette bonne femme elle avait rendu plein de services et sa vie est une tragédie aussi hein. Ce qu'elle a connu vraiment je le souhaite à personne. Mais voilà, très très bon bouquin Mémé de Philippe Torreton.
Oui, justement, j'avais une question. Il a fait d'autres bouquins, c'est ce que
j'en sais rien du tout. J'ai pas lu.
D'accord, je pense que.
Je viens de regarder sur Wikipédia, effectivement, il a écrit quelques autres.
Il a écrit quelques bouquins.
Mais je sais pas. Voilà, moi, c'est vraiment ce bouquin-là, en tout cas. Vraiment, je vous le conseille.
Très bien, très bien. Donc, rappelle le nom classique,
Mémé de Philippe Torreton, sorti en 2014, donc ça doit se trouver facilement.
Édition L'Iconoclaste, voilà. Oui, c'est ça. Écoute, ça a été très vite, c'est parfait ça. Moi, je suis content quand ça se déroule comme ça, tiens. Écoute, on va passer au cinéma.
Il est content quand je ferme ma gueule rapidement.
Ah ouais, alors je sais que là, ça aurait été n'importe quel manga, t'aurais fait 45 minutes sur l'intro, sur les trois premières pages, ou sur la couverture, je sais pas. Donc on va passer au cinéma avec Lionel. Ouais. Et on passe au cinéma, c'est parti. C'est parti pour le cinéma. Je regarde bizarre, moi.
Mais pourquoi tu me dis Robbie Williams
C'est pas du Robbie Williams, c'est du François de Roubaix. C'est la musique de Dernier Domicile Connu.
Et ça date de quand, ça
ça date samplé. De 1900...
Ah, d'accord.
Ça a été samplé par Robbie Williams. Tu m'as regardé d'un air...
Mais je sais pas ce que c'est d'extérieur.
Tu m'as dit...
Mais... C'est quel rapport avec...
J'ai cru que t'allais me cracher dessus.
Non, mais non, je connais pas encore assez bien. Ah, faut que je parle plus près du micro.
Ouais, alors bien dans le micro, ouais.
Désolé parce que je débute, hein, c'est pas...
C'est pas grave.
Mais t'as fait privé de vacances.
Ouais. C'était il y a... Rappelle-moi quand c'était ?
4 ans.
Ça fait rien, moi.
À peu près.
Donc,
je vais vous parler cinéma. Donc, moi, comme on m'a dit, viens à carte blanche.
Oui, viens, carrément. Déjà.
Et du coup, on m'a dit, vas-y, trouve des trucs. Super. Et donc, j'ai trouvé ce matin que, par exemple, catégorie film, une de mes trilogies préférées, c'est Die Hard. Alors, Die Hard, qu'est-ce que c'est ? C'est les aventures de John McClane, incarné par Bruce Willis.
Ouais.
Flic de la côte Est, New York.
Police de New York !
Merci. Doublé par Patrick Poivet, d'ailleurs, donc, oui. Qui est une superbe voix que j'adore entendre.
Qui ne sera pas à Podren, d'ailleurs.
Qui n'était pas à Podren.
Eh bien, peut-être l'année prochaine, disons-le. Non ? Je sais pas.
Vas-y, continue.
Bref. Je continue. On aura déjà Scooby-Doo cette année, c'est pas mal. Donc... Un flic de la côte Est qui est en plein divorce avec sa femme et donc va fêter Noël, alors pour Die Hard numéro 1, va fêter Noël sur la côte Ouest, à Los Angeles. Bien sûr, bon, c'est pas un flic qui met des contraventions, hein, c'est plutôt un flic assez musclé qui fout des coups de poing dans la gueule. Et
des bouches.
Oui, pour être poli, voilà.
Mais est-ce qu'il connaît les trois coquillages?
Des bouches.
C'est pas le même flic, celui-là.
Ah merde.
Du coup, il se trouve que l'immeuble dans lequel il a rendez-vous avec sa femme pour fêter Noël, qui est l'entreprise Nakatomi, en fait, est pris en otage par un méchant allemand et sa bande de comparses. Et du coup, il va s'amuser à tirer tout le monde de là et puis à tirer sur les méchants et sauver la situation et sauver sa femme. Ça, c'est Die Hard 1. Alors après, on enchaîne. Hein. Die Hard 2, c'est le même cinéma, sauf que c'est dans l'autre sens. C'est sa femme.
Et moins bien, je trouve.
Ah non, moi, je suis pas d'accord. Le 2, c'est mon préféré. Ouais.
J'ai peut-être parce que je l'ai le moins vu, peut-être. Le 1 et le 3, c'est mes préférés.
Ah, les trois premiers, de toute façon, sont très bien. Et donc, oui, donc le 2, c'est dans l'autre sens. C'est elle qui vient le voir et qui est bloquée dans les airs parce que l'aéroport est pris en otage pour libérer un dictateur de je sais pas quel pays du sud de l'Amérique qui est extradé aux États-Unis. Donc voilà, après, je dis raconte pas les fins parce que voilà, mais bon, c'est toujours des grands films d'action avec. Avec plein d'explosions, des tirs dans tous les sens, des castagnes, des répliques qui tuent. Parce que...
Et des balles aussi.
Les balles les tuent aussi, effectivement. Bon, le 3, c'est à New York. C'est la vengeance du... Parce que ça s'appelle Die Hard with a Vengeance, d'ailleurs.
Et non...
Qui est la vengeance du méchant du premier.
Du frère.
Hans Gruber.
J'ai dit quoi ?
La vengeance du méchant du premier.
Ah oui, non, c'est le frère. Oui, effectivement, c'est Hans Gruber, le premier. Et lui, c'est Simon, je crois. Non. Si. Il joue à Simon. Ici, voilà, joue à Simon de cette façon. Il joue à Jacques Addy. Donc, Jacques Addy.
Donc, le méchant s'appelle Jacques Addy.
Oui, c'est un... Voilà. Et bref, c'est à New York. Et là, il y a Samuel L. Jackson, avant qu'il cachetonne dans tous les sens avec les Avengers.
Oh,
oh.
Faudra
bien
couper
payer
ça, quand
ces
même.
Trois villas, quand même. Hein.
Mais non, mais franchement, Die Hard 3, elle est très très bien aussi. La musique, fait, tous les Die Hard, enfin, 1, 2, 3, sont très très bien. Le 4, c'est avec sa fille et son prétendant.
Ouais, à partir de là, je connais plus grand chose.
Voilà, et le 5, t'as un aspirateur à radiation. Et le 6, c'est la jeunesse de John McClane. Qui a été annoncé pour on
oui,
sait pas bientôt.
Ça s'appelle Year One.
Year One, ouais. C'est ça. Ouais. Enfin, pour l'instant, c'est
il
ce qui est prévu.
Il va mettre une petite cape et un masque. Et il va faire What
ah, ils vont lui faire des implants déjà pour qu'il ait des cheveux.
Oui, mais voilà.
Non, avis. En fait, il fera une apparition, mais c'est quand même lui qui apparemment est en charge du scénario. Mais pour l'instant, du coup, ça peut changer et revenir une idée normale de scénario, en fait. La suite, encore.
Mais déjà, Die Hard 4, il me semble que c'était pas prévu pour être un Die Hard au départ. C'était un techno-thriller adapté d'autres choses et.
Et ils ont dit, tiens, on met Jack McLean dedans.
Ouais, c'est ça, en fait. Peut-être. C'est pour le disrupter un petit peu. Parce qu'il faut être disruptif.
Ah. Et le 5, alors, c'était quoi du
c'est
coup
en Russie, il doit aller sauver son fils qui est agent secret.
Ah oui, voilà, le 4, c'est avec la fille.
Ouais, le 4, c'est avec la fille. Et le 5, c'est avec le fils. Mais le 5 est vraiment.
À chier. Oh, pardon. Ça sera que tu bah, couperas, s'il te plaît. Hein. Non, mais tu couperas. Hein.
Ah non. Non, je dirais pas ça. Je dirais qu'il est un peu facile.
Il y a des trucs.
Il y a des gros trous dans le scénario et autant bon.
Non mais rassure-toi, il parcourt la Russie en un coup de bagnole.
Voilà,
donc
ils font Moscou de Tchernobyl en 2 heures.
C'est ça.
C'est
ils aspirent les radiations avec un aspirateur.
Voilà, il y a un aspirateur à radiation qui empêche de voilà.
Voilà.
J'ai trouvé ça complètement débile en fait le final. Il y a des bons trucs dans le film, mais le final.
Et là, je me dis heureusement, je l'ai vu à la fête du cinéma.
T'as payé 2 euros.
C'est ça.
Euros.
Exactement.
Mais pourquoi est-ce que c'est bien? Pourquoi je les ai pas vus, ces films?
Alors oui, qu'est-ce qui fait que les trois premiers sont bien? Enfin, que
parce que, comme je l'ai dit, il y a de l'action, il n'y a pas de temps mort, il y a de la musique qui est très sympa. Il y a des phrases qui sont, enfin, des répliques qui sont pas piquées des hannetons. Enfin,
bah, en fait, c'est un mélange assez intelligent d'humour, d'action.
C'est ça, c'est les grands voilà. Films d'action des années 90.
En gros, on est dimanche soir, j'ai pas envie de me prendre la tête et de m'amuser, c'est ça qu'il faut que je prenne.
Exactement, mais sache qu'il y a quand même des choses très intéressantes à apprendre. Par exemple, dans Die Hard 3, il y a un petit cours de mathématiques avec une énigme.
C'est l'énigme.
Ah putain, l'énigme.
Et celle-là, je l'ai regardée et j'ai rembobiné en VHS pour au moins 4-5 fois.
En VHS.
Oui, bah à l'époque, excuse-moi, j'avais enregistré en VHS sur Canal+.
Comment je télécharge en VHS?
Ah, tu peux pas.
D'accord.
Mais je t'expliquerai comment. Je te prêterai des vidéos, Pierre, okay. Ou Chutin te les prêtera aussi.
Oui.
Parce que je les ai offerts, forcément.
T'as failli dire mon identité secrète.
Oui, désolé.
Bruno.
Mince.
On a déjà grillé la mienne sur d'autres trucs, donc d'autres sur des ça va trancher, donc je ne suis pas rancunier. Oui, donc un dimanche soir, t'as pas envie de te prendre la tête, tu peux regarder.
Ouais, autant regarder ça que regarder un mauvais film en fait.
Ouais, parce que ceux-là ils sont vraiment très bons. Le 1, 2, 3 sans problème, le 4 avec des répliques qui tuent, genre, mais t'as tué un hélicoptère avec une bagnole,
non, du coup,
mais j'avais plus de balles.
Est-ce que tu parles des dialogues VF ou VO?
Les dialogues VF sont très bien parce que la voix de, comme je disais, Patrick Poivet, j'adore.
Mais est-ce que la VF apporte un truc en plus, tu vois?
Oui,
de...
la VF apporte clairement un truc en plus, ouais.
Parce que c'est bien traduit, voilà, bien traduit et bien
adapté.
Alors en français, par contre, ils ont des noms débiles les films. Le premier il s'appelle Piège de cristal.
Ah,
le deuxième
oui,
il s'appelle 58 minutes pour vivre.
Sérieux?
Et le troisième il s'appelle Une journée en enfer.
Le 4 c'est Retour en enfer.
Non, c'est oui, si
en
c'est
fait,
ça.
On,
ouais.
On a les titres canadiens. Quoi.
Et
les titres canadiens, il y a.
C'est dur à mourir. Avec une vengeance.
Non, c'est pas vrai. C'est donc c'est bien Piège de cristal et 58 minutes pour vivre.
Marche ou crève, vengeance.
Marche ou crève. Et le 4, c'est Vie libre ou crève.
Voilà, c'est Live Free Die Hard en anglais.
Et le 5, c'est Une belle journée pour crever. Ils disent pas mourir,
ils
disent crever.
Tu vois, au moins ils ont
un petit calice.
Ouais, parce que Die Hard, c'est déjà tu die donc tu meurs. Voilà, mais Die Hard, ça veut dire que tu meurs, mais hard quoi.
De façon difficile.
De façon difficile. Parce que comme l'avait dit notre ancien président de la République, mourir, c'est pas facile.
D'ailleurs, on pense à lui, à Fleury Bérogis. Ah pardon, il est pas encore.
Ah non merde. Mais non, il ira jamais.
Eh ben, en tout cas, moi, je la recommande cette trilogie.
Alors, j'ai une petite question parce qu'il y a eu une flopée de jeux vidéo aussi. Putain, tu l'as vu ou pas?
Flopée.
Le JDG, on avait fait de vidéo là-dessus.
Alors,
sont assez catastrophiques.
Le genre de grenier.
À ce qui paraît, oui.
Alors, oui et non. C'est-à-dire que c'est chaque. Enfin, t'as Die Hard Trilogy, en fait, qui est en une compilation de 3 jeux. Donc, chaque film correspond à un style de jeu différent. Pour Die Hard 1, c'est une espèce de dungeon crawler en fait où on se balade dans chaque étage de l'immeuble. Il faut tuer tous les méchants et désamorcer des bombes. Et bah, évidemment, le Nakatomi Plaza, il fait 100 étages, donc bon, voilà, c'est long. Le 2 est très bien, c'est un rail shooter. Oui, pour l'époque, c'était vachement bien, et en plus, tu pouvais tout dégommer. C'était franchement génial. J'ai passé un temps fou sur la démo, en fait. Juste la démo, tu fais le premier niveau, mais voilà. Et le 3, c'était pour la première fois un jeu de conduite urbaine. Un petit peu libre, mais pas trop, parce que bon, c'était quand même la PS1. Et ils ont fait une suite Die Hard Trilogy 2, en fait, qui est pas basée sur les films, qui s'appelle Viva Las Vegas.
C'est ça.
Où en fait, c'est pareil, t'es trois épisodes, comme si c'était le même film avec trois trucs différents. Où le premier, c'est un peu la même chose dans un immeuble, le deuxième, c'est un rail shooter, le troisième truc, c'est un machin de conduite. Il y a eu Die Hard Arcade sur Arcade et Saturn. Ou Dreamcast, je sais plus. Où là, ça reprenait pas du tout le scénario des films, ça se passait dans un bateau. Et en fait, ils avaient juste fait c'est des beat'em up en fait en 3D, beat'em all, des brawlers, enfin voilà, où tu faisais Street of Rage en 3D quoi.
Où tu
te balades dans un bateau et tu dégommes des méchants. Et en fait, ils ont juste accolé Die Hard dessus, alors que c'était un jeu qui avait pas franchement de rapport non plus quoi.
Alors qu'au final, ce que vous en dites, en fait, ça aurait été plus une sorte de Time Crisis quoi.
À chaque fois, le deuxième épisode du. Oui, ça aurait pu être un Time Crisis, mais là, le fait d'en faire de la bagarre où tu défonces des mecs et tu utilises des flingues. Alors, à noter, c'est assez rigolo d'ailleurs, le personnage, le héros de Die Hard Arcade apparaît dans les. Namco
All-Stars.
Non dans comment ça s'appelle Project Cross Zone en fait, c'est un super crossover tactique entre Namco, Sega et Capcom et du coup t'as des persos de Sega dont lui et qui a la gueule de Bruce Willis en fait voilà, c'est alors qu'il a pas le nom, il s'appelle pas John McClane, enfin voilà, il y a pas la licence, mais c'est juste le héros de Die Hard Arcade. Voilà.
Donc la trilogie hein, principalement, si j'ai bien compris.
Exactement.
Bon,
la trilogie. Et non pas les jeux vidéo. Donc. Ou alors peut-être le sixième, c'est tout.
Ah peut-être.
Ouais, parce qu'ils n'ont pas adapté les.
Peut-être le Dark Souls du Die Hard.
De toute façon, ouais. Et Lyon m'a dit un jour, Die Hard, c'est comme Star Wars. Moi, je préfère la première trilogie. Mais bon.
Enculé.
Bon, en parlant de rien du tout, j'ai pas de transition, mais j'ai envie de parler de jeux vidéo justement.
Oui.
C'est parti. On va parler de jeux vidéo.
Gamescom, c'est le plus grand salon européen dédié aux jeux vidéo. Ils ont des têtes d'abrutis, c'est terrifiant. La plupart du temps, ils sont dans leur chambre à jouer à des jeux vidéo tout seuls. C'est ceux qu'on appelle aujourd'hui des no-life. Hein, ils passent leur vie dans un monde qui est le monde du jeu.
Raffi.
Ah, Raphaël Enthoven, bravo.
Donc, le jeu vidéo, qui veut commencer? Bah, Shootan, je te propose de commencer.
Oui, alors, je reprends honteusement la chronique que j'ai écrite pour Gameside Story, donc vous pourrez la lire sur le site dès qu'elle sera...
Donc tu peux nous donner le lien, ça suffit. Merci. Voilà. Elion.
Non, mais elle n'est pas encore diffusée. Bref. Donc, aujourd'hui, moi, je voulais vous parler de Secret of Mana. La nostalgie est un ressort très puissant que les grosses entreprises du jeu vidéo ont tendance à dégainer un peu trop souvent à présent que les jeunes gamers de l'époque ont vieilli et tentent de ressaisir un instant passé où tout était plus simple. Pas de responsabilité, pas de travail, juste des devoirs, quelques corvées ménagères, et en récompense, le clic satisfaisant de l'allumage de la console et le frisson des quelques notes de musique et sons accompagnant des logos dont l'apparition aujourd'hui au début des jeux ne provoque qu'un agacement et une furieuse envie d'aller bricoler les fichiers du jeu pour qu'ils n'apparaissent plus. Une boîte en carton, verte, un gros fascicule avec une couverture verte accueillante, quelques oiseaux roses et trois personnages qui vont accompagner les longues journées trop courtes des vacances de Noël. J'insère la cartouche dans la Super Nintendo familiale, le clic retentit, et ensuite, une complainte de baleine ou un cri d'animal fantastique, le piano synthétisé d'Hiroki Kikuta et l'aventure. En ce jour de décembre 1994, après avoir lu et relu les 4 pages du Player One numéro 47, le fameux jeu de rôle, une notion tout à fait nouvelle pour moi à l'époque, est en ma possession. L'aventure démarre et on va dire que ma vie a un peu basculé. Tout à fait.
Et donc, c'était
on va piquer les feuilles. Parce
pour la première fois, un jeu vidéo faisait apparaître un monde gigantesque. On était libre d'aller et venir à sa guise, de faire progresser ses compétences, d'améliorer armes, armures, découvrir de nouvelles magies, mal comprendre une histoire mal traduite à la va-vite et insérer dans des cases trop petites pour les mots qu'elle veut raconter. Le fameux rite de passage, en quelque sorte.
Qu'est-ce qu'il vaut, le jeu ? Réponds !
Et puis, un monde vaste, mais qui devient petit quand on le comprend et qu'on le connaît, qu'on parle aux gens, qu'on comprend leurs combats, leurs histoires. Comme cette île de la tortue où vont vivre les parias de leur plein gré pour ne plus être stigmatisés, ou le Père Noël qui veut qu'on continue de croire en lui, ou encore ce roi de l'île d'or qui utilise le pouvoir de Lumina pour s'enrichir, les pirates qui tentent de faire la même chose avec l'élémentaire du feu, etc. Vous l'aurez compris, c'est l'un de mes jeux favoris. Depuis sa sortie, je l'ai parcouru de nombreuses fois, seul ou accompagné. Des décors colorés, variés, enchanteurs, accompagnés des musiques splendides qui utilisaient de manière ingénieuse le chip sonore de la Super Nintendo, ont longtemps rythmé des journées et des nuits. Alors oui, avec du recul, le jeu a des défauts, un système de menu circulaire novateur mais agaçant à la longue, des compagnons IA insupportables qui se coincent partout, un scénario imbrin bancal au final emmené par des personnages un peu transparents.
Et puis, la fin vachement dangereux aussi.
On apprend l'histoire de ce jeu que Square et Nintendo voulaient en faire le fer de lance du Super Nintendo CD-ROM, mais qu'au final le projet avorté a fait que les développeurs ont dû comprimer leur jeu pour qu'il tienne sur la cartouche au prix de bugs et d'un scénario finalement linéaire alors qu'au départ cette fin était prévue.
7.
Oh merde.
Et oui. Et puis, en août 2017, Square Enix annonce un remake de
Secret of Mana. Il a trois pages.
En taille 10, la police. Hein.
Ouais. Le monde retient son souffle. Les images et séquences du jeu se veulent rassurantes, mais les gens crient, on va leur casser leur doudou avec des designs moches et tout ça. Mais Square Enix n'en a cure. Ils veulent que leur nouvelle vision de Secret of Mana voie le jour, et c'est pas trois nerds qui gueulent sur Internet qui vont leur faire changer d'avis. Et en février 2018, le voici. Bah, c'est le même jeu. Les assets ont été recréés en 3D. Il semble évident qu'il s'agissait à la base d'un jeu Vita PS3 qui a été porté sur PS4 vite fait, sans optimisation, puisqu'il est sorti sur Vita et que sur Vita, ça plafonne à 24 images secondes et ça ralentit souvent. Et sans vraiment vouloir faire autre chose qu'un petit billet facile sur le dos des nostalgiques du bon vieux temps dont je parle au début, malgré les réticences d'une partie de la communauté qui d'ailleurs ne s'est pas franchement jetée dessus. Les chiffres de vente sont assez catastrophiques.
Attends, tu parles duquel
du remake.
Du PS4, ouais.
Beaucoup de choses ont été dites sur ce remake, certaines clairement exagérées. Par exemple, je ne trouve pas le design hideux, un brin générique, mais c'est choupi, alors ça passe. Non. C'est pas vraiment le côté esthétique qu'on peut attaquer le jeu. Il est joli, coloré, varié, très en dessous de ce qui se fait sur PS4, avouons-le, mais c'est un style. Les musiques réorchestrées vont de l'excellent Fear of the Heavens, que tu peux mettre. Et donc c'est la musique de Hiroki Ikuta dont je parlais tout à l'heure. Et donc les musiques vont de l'excellent, hein, celle-là est très très bonne, c'est dommage, c'est juste l'écran titre. Ça va jusqu'à la cacophonie insupportable, qui c'est donc par exemple Ocurious Tale, qui est horrible.
Dans un
ils ont mélangé trois pistes ou...
Voilà, c'est un peu ce qu'on se dit, c'est une cacophonie vraiment horrible.
Quelle horreur.
Et en passant, donc voilà, c'est horrible, ou en passant par des remixes chelous, mais bon, pourquoi pas. Au pire, on peut toujours remettre les musiques originales, donc c'est quand même bien, et cette fois-ci, les effets sonores ne sont plus sur la même piste, donc plus de coupures intempestives.
Ah oui.
De plus, le jeu n'est pas très stable, il m'a très souvent pété à la gueule. Heureusement qu'ils ont prévu des sauvegardes automatiques, c'est peut-être à cause de l'instabilité du jeu, du coup, c'est, voilà. Enfin, ça aurait pu être pire, ils auraient pu balancer la version iOS telle quelle, comme pour Chrono Trigger, qui est un scandale.
Putain, oui.
Mais voilà, ça aurait dû être tellement mieux. L'idée de refaire le jeu en haute définition, mais en gardant les décors et autres trucs de base, c'est assez répandu et ça marche très bien pour les point and click LucasArts et pour Wonder Boy 3 par exemple. Mais là, compte tenu de l'évolution du genre de l'action RPG, on peut pas vraiment se contenter de ça. Surtout que Mystic Quest, le premier Seiken Densetsu, parce que Secret of Mana, c'est Seiken Densetsu 2, voilà, avait bénéficié d'un remake fantastique sur Game Boy Advance sous le nom de Sword of Mana en 2004. Alors on pourrait penser que le monument qu'est Secret of Mana aurait pu lui aussi profiter d'un traitement de faveur. Eh ben non. Alors on va aller à la session des pourquoi. Déjà à l'époque, on avait remarqué.
Attends, il y a eu un remake de Sword of Mana ?
Sword of Mana, c'est un remake de Mystic Quest.
Attends.
Mystic Quest sur Game Boy a été refait sur Game Boy Advance en 2004 sous le nom de Sword of Mana.
D'accord.
Il y a eu un remake de Sword of Mana aussi sur mobile qui est nul. Donc voilà.
Okay. Ah, moi je croyais que Dragon Quest était un remake de Mystic Quest.
Non.
Non, ça n'a rien à voir, les deux séries sont différentes.
Donc déjà à l'époque, on avait remarqué les défauts du système de jeu. Les menus sont pénibles, on ne sait pas les caractéristiques d'un nouvel équipement avant de l'acheter, les personnages se coincent dans le décor, etc. Pourquoi avoir conservé ces défauts ? Pourquoi avoir enlevé la séquence de déplacement en canon ?
Quoi ?
Pourquoi avoir retraduit le jeu mais enlevé les bonnes idées de la traduction française ? Pourquoi le jeu plante aussi souvent ? Pourquoi une OST réorchestrée aussi inconstante ? Pourquoi des voix anglaises mal jouées ? Pourquoi ne pas avoir amélioré le système de montée en compétences ?
Quand est-ce qu'on mange ?
On peut réutiliser. Non, j'ai dit pourquoi, pas les quand. Ouais. On peut réutiliser les mêmes techniques chiantes de graines qu'à l'époque. Ils devaient le voir que c'était déjà relou. Pourquoi pas avoir modifié ça ? Pourquoi ne proposer que deux raccourcis ? Parce qu'on peut appuyer sur L1 et R1 pour avoir des raccourcis vers les magies, mais il y a quatre boutons non utilisés sur la manette. Bon, mettre en haut à droite la carte d'origine, c'est sympa, mais tant qu'à faire, pourquoi pas avoir inclus une option permettant de rebasculer sur les graphismes d'origine ? Pourquoi l'angle de vue est-il si bas ? On voit, il y a des choses qu'on voit pas. Et surtout, ce qui m'a le plus déçu, pourquoi ne pas en avoir profité pour restaurer le contenu amputé ? Où sont les sept fins, les embranchements scénaristiques ? La carte du monde nous permet de survoler des villages et des ruines, mais on peut pas y aller. Le phare sert toujours à rien. L'intro du jeu est superbement dessinée, laisse espérer des séquences en plus, mais rien ne vient s'ajouter à l'aventure originale. Même pas un petit donjon supplémentaire, la Chrono Trigger. Il y a quelques trucs ajoutés, comme des petites séquences à l'auberge, les personnages discutent, et ce faisant, on a quelques scénettes sympas qui lient le groupe de persos, mais c'est vraiment très léger. Tout cela est agaçant et laisse à penser que ce remake n'a pas été pensé comme un jeu cohérent, mais comme un bricolage rapide sans budget. Et c'est super dommage, ça va pas jusqu'à gâcher le jeu original, mais la déception est grande. Et pourtant, malgré tout, j'ai repassé une vingtaine d'heures sympathiques à revivre les aventures connues, à côtoyer des personnages hauts en couleur, à découvrir que le monde que je voyais gigantesque à l'époque est devenu si petit, et ça a fait clic. On peut se poser cette question. À qui peut bien s'adresser cette critique chronique et à qui s'adresse le jeu, puisque la communauté a fait savoir assez vocalement qu'il n'en voulait pas. Secret of Mana est un jeu qui est encore aujourd'hui une porte d'entrée admirable dans le jeu merveilleux des jeux d'aventure. Une quête simple, des objectifs précis qui se complexifient, des systèmes qui s'additionnent pour former un tout. Une histoire pleine de rebondissements, des personnages positifs, des méchants vraiment très méchants, de l'espoir, de la tristesse. Tout est là. Alors, à présent, certes, on est bombardé d'excellents jeux, mais aucun n'arrive à être le béaba du jeu d'aventure. Et je pense que Secret of Mana en fait partie. Avec Legend of Zelda, Link to the Past, il a posé les jalons d'une culture vidéoludique concernant les jeux d'aventure, et beaucoup de joueurs lui doivent ça. Alors, jouez-y, pas forcément cette version, préférez la version Super Nintendo si possible, d'autant qu'il est dans la Super Nintendo Mini, mais c'est le même jeu, donc vous n'y perdrez rien. Et le fait de l'avoir reproduit en joli peut permettre à une nouvelle génération, pas encore perdue dans les affres du mini-maxing de compétences, de découvrir un univers merveilleux et de se plonger avec joie dans l'aventure.
Ouais, voilà. tu nous as fait un bel enfumage.
Pourquoi ?
Bravo, non, mais je pensais que t'allais un petit peu plus expliquer certains trucs.
Eh ben non.
Eh ben ok, bon ben.
Non mais c'est une vraie question en fait, sur le pourquoi c'est comme ça. Moi je pense tout simplement, c'est même pas tant une question de budget, je pense que c'est à la fois une question de temps parce qu'ils n'ont pas envie de se faire chier, et je pense que tout simplement il n'y a pas les personnes, il n'y a pas les compétences aujourd'hui pour refaire Secret of Mana. Si tant est que l'éditeur ait encore les scénarios, les trucs comme ça.
Ah bah oui, complètement.
C'est, je pense qu'il y aurait une vraie question, une vraie enquête à faire là-dessus sur... Pourquoi est-ce qu'on a des remakes aussi pourris en termes de... Enfin, ils sont pas pourris, puisque la base est toujours aussi bonne, mais pourquoi autant de fainéantises ? Ben, je pense tout simplement parce que ce sont des fainéants et parce qu'ils n'ont pas envie d'embaucher des gens pour vraiment faire ça. C'est vendu par des mecs qui n'ont pas la culture vidéoludique.
C'est ça, tout à fait. Mais après, je pense qu'il y a une frustration parmi les développeurs et les créatifs, qui sont bridés par le marketing, en fait.
Imagine, tu fais tes études en ayant grandi avec Secret of Mana, on te demande de travailler sur le remake, et au final, tu n'as aucune liberté, aucune... Enfin, je sais pas, moi, je fais que des hypothèses. Mais j'avoue que c'est assez fascinant ce genre de truc. Comment on peut, avec Secret of Mana, arriver à se foirer ? C'est un peu comme si Nintendo ressortait Zelda A Link to the Past en disant on va faire une version un peu mieux et qu'il te sortait une version Android. Enfin, c'est hallucinant le respect est mort quoi. Enfin, quand tu vois ça. Personnellement, je pense que, contrairement à ce que tu disais, je pense qu'il ne faut pas y jouer en fait, dans ces versions-là. Il faut vraiment pas
y jouer à la version originale.
Il faut jouer en version Super NES, peu importe.
Faut surtout pas jouer à la version iOS, qui est encore pire. Mais
en termes de remake, dans le jeu vidéo, on a des superbes exemples. On a Shadow of the Colossus qui est ressorti il y a pas longtemps. Shadow of the Colossus, aujourd'hui, moi j'y ai joué sur PS2 à la sortie. Je l'ai racheté sur PS3 parce que ça proposait des meilleurs graphismes et qu'ils avaient amélioré le jeu. Et je l'ai racheté sur PS4 parce que ça reste un grand jeu comme Secret of Mana et parce que surtout, à chaque fois qu'il y a des remakes, et ben, ils ont fait quelque chose du jeu et ils se sont pas contentés de chier sur la table le truc quoi. Voilà.
C'était quoi le souci avec Chrono Trigger pour les mecs ? J'ai pas vu
ça. Ils ont sorti une version Android.
Enfin. Alors voilà, en fait, sur Steam, ils ont sorti la version Android. Enfin, oui, la version iOS.
C'est ça. Non, mais c'est ça. Ça se voit littéralement sur l'écran que t'as une interface tactile. Enfin,
c'est ça. C'est...
Si t'as une tablette Windows, ça doit être bien à la limite. Mais...
Même pas parce qu'il est pas tactile le jeu.
Non, mais si t'as une tablette tactile.
Non, ça marche pas.
Ça marche pas ?
Ça marche pas. Du coup, il y a des mecs qui modent le jeu pour qu'il soit. Comme à l'origine, en fait. C'est-à-dire qu'ils le dévoluent pour qu'il soit...
Du coup, ils en font un émulateur du...
Mais oui, voilà, c'est pourquoi se faire chier, quoi. Mais je veux dire, autant utiliser l'émulateur. Ouais.
En fait, c'est là où tu vois que quand il y a des amateurs qui refont des trucs, en général, c'est largement mieux parce que, bon, voilà, ils sont passionnés par le jeu.
Si t'as eu, là, un remake de Metroid 2, qui était très bien sur 3DS, qui est, pour le coup, ils se sont vraiment sortis les doigts aussi chez Nintendo.
C'est Nintendo.
Oui, mais alors... pour le coup, t'avais un mec qui avait bossé pendant 10 ans sur son remake de Metroid 2 et que quand il l'a sorti une semaine après, il s'est pris une grosse lettre d'avocat. Et voilà. Alors que, mais bon, pour le coup, Nintendo après a fait bon bah du mais, coup, nous on sort notre remake mais, comme ça, voilà.
Mais j'en termine là-dessus très rapidement. Ouais, c'est ça, c'est là où le jeu vidéo est assez passionnant, c'est que le jeu vidéo est à jamais, il y a jamais une forme définitive à un titre. En fait, en jeu vidéo, on s'aperçoit de ça avec les remakes. Les films font ça, ils appellent ça des reboots. On retourne le même film des années plus tard avec un style différent. Le jeu vidéo, en fait, on peut prendre une œuvre originale, les mecs peuvent faire un remake, le rendre mieux, et les gens vont se dire bon bah voilà, maintenant le jeu c'est ça. C'est assez passionnant à faire, et justement c'est désespérant de voir que l'industrie s'en fout quoi. Enfin, que je sais pas qui c'est qui est derrière tout ça d'ailleurs, c'est qui l'éditeur
C'est Square Enix.
Square Enix. Bon bah ça m'étonne pas.
Ouais. Ça pourrait être pire, ça pourrait être Konami.
Oui.
Au niveau jeux vidéo, je crois qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Donc, je propose de continuer. Qui veut y aller, Nemo?
Moi, je vais juste dire que Secret of Mana, je me suis arrêté au premier lapin, moi qui m'a tué direct. Ah. Et du coup, j'ai arrêté. Bah, désolé.
Piètre performance, hein. Tu serais pas un bon speedrunner. Bon,
si le but c'est de finir le jeu,
oui, c'est
le game over le plus vite possible.
C'est le run téton de Mario, quoi.
Voilà, c'est ça.
Lyon, est-ce que tu veux nous parler d'Overwatch?
Oui, alors contrairement à ce que je disais en intro, parce que c'était une connerie, Overwatch Mobile n'existe pas.
Oui, oui.
Pour l'instant.
Les esprits avisés l'auront.
Et je me suis un peu embêté à faire une musique que t'as même pas mise d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave.
Ah, mais attends, je la mets tranquillement. Ah. C'est parti. Ah, Play of the Game.
Donc là, on a des images de Torbjörn en train de se gratter les couilles dans un coin de la map pendant que sa
tourelle fait tout le travail.
La flopée de même avec ça était très drôle.
Oui.
Alors, Overwatch, qu'est-ce que... Moi, je connais pas assez Overwatch, j'aimerais bien en savoir plus.
Tu y joues ou pas?
Non, pas du tout.
Du tout.
Non.
Comment dire? Je crois que c'est le jeu qui me pose le plus de problèmes mentaux en ce moment, en fait.
Tu rages.
C'est que... Non, pas que. En fait, j'aime beaucoup et en même temps, des fois, j'aime pas du tout. Je passe par tous les sentiments avec ce jeu, en fait, c'est assez horrible. Alors, Overwatch, c'est un FPS compétitif par équipe, avec aussi une partie solo, mais ça, enfin, solo deathmatch. mais bon, ça, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Et donc, il y a aussi bien de la version compétitive, dans le sens où il faut donc capturer des points, maintenir...
Capture the flag.
Il y a eu un capture the flag pendant la période de Nouvel An chinois, que j'ai même pas testé d'ailleurs. Mais comment dire? Non, il faut capturer les points et pousser des petits wagonnets, comme dans TF2 d'ailleurs, à l'époque, qui existe toujours d'ailleurs. Et dans le but d'arriver au bout et bien sûr en tatanant les ennemis. Enfin ça c'est le but, hein. Le but c'est de marquer des points en avançant ou en capturant les points. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est juste de tuer le plus d'ennemis possible.
Moi je pensais que c'est ça. C'était ça.
Bah en fait c'est un des buts mais ça ne sert à rien si tu tues mais qu'au final le reste de ton équipe se fait bien gentiment balader dans tous les sens. Et que pendant ce temps-là le chariot il avance, et ben ça ne sert à rien, ton équipe a quand même perdu à la fin. Donc voilà, c'est pour ça que moi je passe par tous les sentiments, puisque quand ça se passe bien, quand l'équipe joue très bien, c'est-à-dire que quand il y a des soigneurs, quand il y a des tanks, des personnages qui prennent les coups pour les autres.
Qui font leur job quoi.
Quand les gens font leur job, eh ben, c'est agréable à jouer et c'est nerveux. Ça peut foutre la gerbe quand tu regardes des matchs en direct. Et par contre, quand les gens font n'importe quoi, donc, comme c'est souvent le cas en quick play, donc les parties sans conséquence sur ton rang... sur ton classement, on va dire. Bah là, c'est juste très, très emmerdant parce que les mecs t'insultent et je pèse mes mots. Bien souvent, c'est souvent des gosses, d'ailleurs. J'ai déjà entendu des...
Ah, bah, ils ont 12 ans.
À peu près, ouais. Mais j'ai du mal à déterminer l'âge avec la voix. Entre 12 et 17, j'ai un peu de mal. Après, ça va un peu mieux.
Ah, tu utilises le chat audio?
Oui. Alors, en fait, ça, c'est très récent. Parce qu'avant, je n'utilisais pas. Puis là, je me suis forcé. Et en fait, quand tu tombes sur des équipes qui l'utilisent, eh ben, on voit toute la différence. Et en fait, on voit déjà la différence quand on joue avec des gens qu'on connaît. Et quand tu annonces où sont les ennemis, forcément, tout le monde se retourne en même temps et fout des belles tatanes à tout ce qui arrive par à gauche, à droite, à fond, derrière. Bref. Et donc voilà. Et donc quand les gens font n'importe quoi, bah, ça me fait un peu rager parce que bah, du coup, t'as l'impression de perdre ton temps. Au grand dam du classement.
Alors moi, ça m'a tellement fait rager que j'ai arrêté d'y jouer pendant un an.
Eh bien, moi, j'ai arrêté d'y jouer pendant 4 mois, je pense, au tout début.
Ça fait bien 6 mois que j'ai pas repris. Mais par contre, il y a un truc qui me fascine dans Overwatch, c'est la façon dont ils développent le lore, en fait, du jeu. Mm. Le lore est très intéressant. Enfin, alors, l'univers, l'ambiance tout autour du jeu. Il y a des courts-métrages, il y a vraiment...
Alors ça, j'allais y venir. C'est que la musique est très très bien. Comme on a pu l'entendre, c'est un petit, c'est quand même bien, bien orchestré. Toutes les cartes ont leur petit thème. Les graphismes sont quand même, oui, là, c'est Blizzard qui le fait, effectivement. Les cartes ont leur thème audio, même graphiquement c'est à tomber, et il y a, comme disait Nemo, il y a des très beaux courts-métrages, doit y avoir plus de 20 minutes déjà pour l'instant, même plus que ça maintenant.
Bon, on attend le film.
Et il lance régulièrement des nouveaux héros, donc le dernier c'est Brigitte qui est une écuyère. Ah, pas les chevaux, hein, faut oublier tout ça. Non, c'est une écuyère qui est donc, c'est sur un mélange entre le support et le tank, qui balance des boucliers aux gens. Et qui va tataner à coup de fouet, à coup de, je sais pas comment, un fléau, merci. Voilà. Et donc voilà, ça c'est le dernier héros qui est sorti et qui sera en compétitif que dans un mois et demi à peu près.
Ah, parce que les héros sont pas directement.
Non, parce que sinon ça ferait trop de changements sur la scène et c'est aussi un des problèmes que j'ai dans Overwatch.
Attends, moi quand j'y jouais, le classement, en fait, le gros problème que j'avais avec Overwatch, c'est qu'il faut arriver à suivre. Et Blizzard change des trucs en permanence pour que les gens n'utilisent pas les mêmes compositions d'équipe.
C'est peut-être ça qui est intéressant, c'est pouvoir équilibrer en permanence et du coup changer.
C'est pas rééquilibrer, ils changent de méta et c'est tout, quoi.
Faut trouver comment équilibrer 27 personnages en permanence, c'est un peu chaud quand même.
Ouais.
Mais ils s'en tirent à peu près bien, à part 2-3 trucs qui sont pétés, qui finissent par changer. Anzo, si tu m'écoutes avec ta skater, salut. qui va être donc enlevé totalement le mois prochain.
Ah bon ?
Et oui, et ben ça va faire du bien à tout le monde. Hein.
Il va voir quoi à la place ?
Un tir rapide, je crois.
D'accord.
Et les discussions Overwatch, c'est souvent ça.
On va faire un podcast Overwatch. Les Overwatchos, comment ça va ? Salut, tout va bien.
Donc voilà, donc Overwatch, moi ça me plaît beaucoup pour jouer avec les potes. Tout seul, je commence un peu à m'énerver. Et je pense qu'il faudrait que je fasse un petit check-up médical de mon cœur à chaque fois que je joue, en fait, pour voir si je monte pas dans les 180 battements par seconde.
Mais j'ai une vraie question.
Par minute.
Du coup, il y a toujours autant de joueurs? Parce que, en fait, pour moi, j'avais l'impression que PUBG, enfin, Player No Battleground et Fortnite avaient un peu...
Ouais, mais c'est ça, c'est pas les mêmes joueurs, en fait.
Non, c'est pas le même style. PUBG et Fortnite, c'est du...
Battle Royale.
Merci! Putain, la vache, heureusement, vous êtes là, les gars.
On est en assiste, on est là.
Et Fortnite, j'ai essayé, c'était drôle deux secondes, mais bon. Ça, faudrait tester en équipe aussi.
Mais ouais. En gros, Overwatch, il faut vraiment y jouer, comme tu disais, faut y jouer avec des gens qu'on connaît, sinon.
Voilà. Autant quand mes amis sont pas forcément là, je suis tombé sur un groupe de Français, qui d'ailleurs, des fois, m'ont lâché parce qu'il faut qu'on aille réviser. Et ça, à mon âge, moi, j'avais oublié ce que c'était que réviser.
C'est le brevet!
Ah, on a bac blanc, faut qu'on y aille.
Ouais, non, je pense que la voix est un peu plus mature.
C'est des excuses, quoi.
Ah, c'est peut-être des excuses pour lâcher, mais...
C'est des excuses à l'étage, genre, oh, j'ai mon bac, oh là là, demain j'ai cours, faut que j'aille au Fox, on doit des trucs comme ça.
Moi, je le fais.
On ne cite pas qui est-ce que tu es, d'accord.
C'est moi.
Ouais, j'avais compris. Dès qu'il a dit Fox, j'ai compris.
Ah ouais.
On fera pas de pub, hein, c'est pas bien.
Ah si, moi, j'ai fait
aussi, on peut faire de la pub, c'est un très bon bar, en vrai.
D'accord.
Parce que, ce que j'aime bien dans Overwatch, c'est la VF.
Oui.
Les voix françaises sont vraiment chouettes, en fait. Bah, après, c'est Blizzard, ils ont dû aligner le pognon. Mais en gros, t'as...
C'est pas vrai, ils ont viré l'aubergiste.
T'as Patrick. Ouais,
c'est vrai.
Ah oui.
Il a été viré parce qu'il a révélé une carte de Hearthstone, une carte qui n'est pas encore sortie. Enfin, c'est Flak qui m'avait raconté ça. Donc,
Je connais pas les détails précis, mais il a fait ses adieux.
Il a révélé
en train
une carte qui était en cours de, enfin qui n'était pas encore révélée. Et il a un petit peu spoilé.
Les secrets, secrets bien gardés.
Ouais.
Ouais. Ouais. Donc alors, t'as Bernard Gabay qui fait Genji. Donc Bernard Gabay, on l'entend surtout, c'est la voix récurrente de Robert Downey Jr.
Oui.
Dans les Iron Man.
Il devait y avoir un Michel Papinetti quelque part.
Alors, non, parce qu'il est mort.
Le mec qui fait Lucio, c'est qui?
Non.
Il y a Patrick Borg.
C'est vrai? Mais je regarde Monk tous les jours.
Mais oui, mais ouais, mais Michel Papinetti, il me semble qu'il est mort. Je dis peut-être une connerie, mais je crois que j'avais vu qu'il était mort. Wikipédia, ça m'a rendu
tu peux vérifier.
Donc, t'as Patrick Borg qui fait Soldat 76. Donc, tu regardes Monk, mais est-ce que tu regardes Bones? Hein,
non. Voilà. Brennan?
Boost, quoi. Non.
C'est... Ah merde! Ah, tu sais même pas. Ouais, mais je joue en VO aussi.
T'as Adeline Chetaille, qui fait May. José Lucioni, qui fait Torbjorn. Donc, José Lucioni, on l'entend souvent. Alors, il fait une voix. Par exemple, dans Uncharted, c'est Sullivan.
Alors, Michel Papinecci n'est apparemment pas mort.
Non, il est pas mort,
excuse-toi,
d'accord.
Excuse-toi, okay.
Je m'excuse, désolé, Michel.
T'as fait une Ruquier, là.
Oui, j'ai fait une Ruquier.
J'aurais pu se dire qu'il a fait une Boutin. Hein.
Il y a Donald Renew aussi qui fait Lucio.
Et qui fait Sora
Donald,
dans.
Donald Renew.
Qui fait, voilà, qui fait,
et il fait la pub pour.
Et Reese dans Malcolm.
Et Reese dans Malcolm, tout à fait.
C'est la partie parlons VF de cette.
Et un truc rigolo, hein, c'est que t'as un des personnages qui est surnommé Doudou, c'est Doomfist.
Ah oui.
Et la voix française, c'est Doudou Masta. Voilà, donc ça s'invente pas. Donc il y a Boris Rillinger aussi qui fait McCree. Enfin voilà, c'est.
Et la VF est génial.
Hein. La VF est très très bien.
Moi je joue en VO, c'est pour les puristes, désolé.
Donc, Boris Rillinger, c'est la voix de Colin Farrell, Jason Statham, Ben Affleck.
Sur la VO, petite anecdote, moi j'avais entendu parler de ça, c'était la voix de. Je sais pas, le mec qui fait les cowboys là.
McCree.
McCree, la voix de McCree qui joue à Overwatch, qui stream Overwatch.
Oui.
Et quand il est avec son équipe, il faut savoir que quand un personnage dispose de sa capacité spéciale, son ulti, il dit une phrase caractéristique de son ulti. Et le mec, comme il fait la voix de McCree, il s'amusait dans le micro à dire cette phrase en mode il avait des ultis en permanence.
C'est
Et du coup, ses coéquipiers comprenaient plus rien. C'était assez.
Ah, pas mal. Donc,
mais il y a une bonne commu autour d'Overwatch. Il faut juste tomber sur les bonnes personnes ou connaître surtout les bonnes personnes. Et voilà, c'est exigeant, mais.
Bah, justement,
bon,
moi,
jeu.
Ce qui me freine dans ce genre de jeu, c'est déjà, j'ai pas le PC pour. Mais surtout.
Alors ça tombe sur n'importe quoi.
Pas très gourmand. Hein,
ouais,
quand même,
mais même, j'ai pas le temps. Bref.
Ah bah, ouais,
enfin, je veux dire.
Ah, mais là, c'est autre chose.
Et aussi, c'est le genre de jeu où, en multi qui m'intéresse pas forcément.
Il y a une vraie difficulté, cependant, dans Overwatch, c'est d'arriver à trouver une communauté qui est d'accord soit pour s'amuser, soit pour être compétitif. Tu peux pas faire les deux, en fait. C'est.
Bah, oui, moi, je fais les deux différemment, en fait, parce qu'avec mes vrais amis de tous les jours, je fais du quick play et ça se passe bien parce qu'au moins les gens font pas n'importe quoi. Et par contre, avec le compétitif, je le fais avec des gens que je ne connais pas forcément et ça se passe un peu mieux parce que c'est des gens motivés.
Si tu fais du compétitif, tu vas monter en level. C'est des gens qui font juste du quick play comme moi.
Non
mais tu montes en level. Je veux dire, tu montes à un niveau qui est de plus en plus élevé et du coup, l'équilibrage des parties en quick play va s'en retrouver complètement pété.
Non, parce qu'en quick play aussi, c'est équilibré. Il y a un autre MMR qui est capté. Alors, c'est les codes de calcul de ton rang, enfin de ton activité, on va dire. Donc, ouais. C'est quand même plus ou moins équilibré, même en quick play, en fait.
Parce que moi, quand j'ai joué vraiment l'équilibrage, j'étais complètement pété. Hein, parce que je jouais avec des gens qui jouaient très, 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 beaucoup plus régulièrement.
Je pense que si tu jouais maintenant, c'est un peu plus lissé, okay, parce qu'il y a tous les niveaux, en fait.
Ouais, c'est ça. Et puis, surtout que le jeu a eu pas mal de phases de moments gratuits.
Mais c'est cool qu'il soit toujours vivant et actif, en tout cas.
Ah oui, bah, de toute façon, c'est.
Ah, mais bizarre, il va arriver à ses 2 ans, en mois de mai, cette année.
Parce qu'il est sorti le 24 mai.
Évidemment, un film. Moi, j'attends que ça.
Ça pourrait être très, très bien.
Bien, messieurs, désolé de vous couper, mais on a plein de choses à dire encore parce que Nemo va nous parler de son jeu. Shoutan a plein de séries à nous proposer.
Voilà.
Il y a les trucs
encore,
en plus. On va boire une bière. On va aller au Fox.
J'ai sorti les 3 pages de ma truc.
Ah oui, pour Dailymars ou un truc comme ça.
Ouais, c'est ça.
Nemo, tu as un jeu vidéo?
Ouais, j'ai
encore
un jeu vidéo.
Hein. Gros dossier jeu vidéo.
Je tiens à dédier cette partie à Johnny Pigeon.
Ah, qui l'éternel second?
L'éternel second, c'est qui m'a prêté ce jeu. Alors, Horizon Zero Dawn est un jeu exclusif à la PS4.
Tu finis quand Red Dead Redemption, s'il te plaît?
Pas sur PS4, du coup.
Ouais.
Horizon Zero Dawn est un jeu qui a eu un gros défaut, c'est qu'il est sorti en même temps que Zelda, Breath of the Wild, sur Switch et Wii U. Et
du coup, tant pis pour lui.
Bah oui, c'est un peu le problème. Et moi, j'y ai joué donc avec des mois et des mois de retard. Et c'est un super jeu. Alors, j'ai du mal. Pour raconter l'histoire, ça se passe dans un monde. Faut imaginer des personnages qui vivent un peu comme au temps de la préhistoire, on va dire. Il y a des tribus. En grosso modo, ce qu'on devine, j'ai pas fini le jeu, hein, mais grosso modo, ce qu'on devine, c'est que la Terre était arrivée à un niveau technologique très avancé et que tout ça s'est effondré et que du coup, c'est la nature qui a repris ses droits. Du coup, les hommes vivent en tribus et au milieu, les bêtes sont des machines qui savent pas, enfin, qui attaquent quasiment.
Des machines de Boston Dynamics. Pour donner une idée un peu.
Voilà. Et là où le jeu m'a impressionné, sur plein d'aspects, franchement, quand j'avais vu les images et vu une personne y jouer, j'avais l'impression, par rapport à Zelda Breath of the Wild, que c'est un jeu extrêmement classique, en mode, bah voilà, c'est un faux open world, en mode, voilà, etc. Enfin, en gros, tu suis une histoire préétablie. Mais il se trouve que le gameplay est absolument dingue. L'univers, déjà, est très très bon. Je veux pas trop en raconter, parce que vraiment, faut plonger dedans. Je sais pas trop comment dire, à quoi ça ressemble, c'est un mélange entre un truc un peu nordique et préhistorique et en même temps avec des grosses machines et toute une ambiance un peu futuriste. C'est assez unique la façon dont ça a été fait. C'est très intelligent dans son écriture. Il y a des défauts par contre sur le scénario, sur la réalisation technique, j'en reviendrai après, sur la réalisation vocale, mais la réalisation technique est bluffante, l'univers est magnifique, vraiment 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 beau. Tu te balades dans des plaines, dans des trucs, t'as mis la musique. La musique est vraiment cool. Le gameplay, pour en revenir à ça, en fait il y a plusieurs types de gameplay. Déjà il faut créer ses armes, c'est-à-dire que comme on a un arc
et
des flèches.
Non
mais il y a plusieurs types de gameplay dans le jeu. C'est déjà tu peux y jouer en mode infiltration, genre je vais m'approcher au maximum de la machine, puis je vais la one-shotter. Voilà, tu peux mettre des pièges. Tu dois recréer tes armes. T'as une gestion de compétences et de capacités. T'as une gestion de tes trajets, parce que comme t'es dans un monde où en gros tu voyages pas comme ça, genre t'appelles pas un Uber pour te déplacer d'un point A à un point B. Les voyages rapides sont payants, c'est-à-dire que c'est un objet qu'il faut acheter ou qu'il faut construire pour pouvoir faire du voyage rapide. Tu sauvegardes pas quand tu veux, faut trouver un endroit où il y a du feu et etc etc.
Moi j'aime bien pouvoir sauvegarder quand je veux.
C'est ouais, mais là ça a sa justification si tu veux dans le gameplay. Et vraiment il y a un univers magnifique que tu peux aborder de plusieurs manières et une histoire à rebondissement. C'est vraiment un jeu qui m'a pris par surprise et sur lequel je pense. Alors Johnny m'a dit qu'il y avait passé une 80aine d'heures sans le DLC. Parce qu'il y a des quêtes secondaires, il y a des tas de trucs comme ça. Il y a quelques défauts. Alors je vais les énumérer rapidement. Le premier, c'est que pour tout ce qui est grimpette, ils ont voulu faire des phases un peu Uncharted mais rapidement. Sauf qu'en fait, pour pas s'embêter, les zones où tu peux grimper, elles sont signalées par un jaune que tu repères à...
Le rouge Mirror's Edge, quoi.
Voilà, c'est ça, le rouge Mirror's Edge. Et là, c'est du jaune Horizon Zero Dawn.
Le jaune Deadlight, non, c'était...
Et au final, c'est pas très intéressant. Mais le plus gros défaut, selon moi, c'est le mixage sonore. Alors, la VF est pas mauvaise, mais le mixage sonore, c'est une catastrophe. Vraiment. En fait, l'action est censée se passer dehors, voilà, dans un endroit où il fait un peu froid, mais ouvert, et t'entends que les mecs sont, enfin, les gens qui enregistrent sont en studio, ça s'entend à des kilomètres, le volume est pas bon,
T'entends, Michel, on va manger?
Non, en fait, t'entends surtout qu'ils ont enregistré ça phrase par phrase. Alors, tu l'entends, il n'y a pas de liaison entre les phrases, les acteurs sont paumés, ils savent pas ce qu'ils jouent. Je pense même qu'ils n'étaient pas face à face quand il y a des dialogues à certains moments.
C'est de plus en plus rare.
Ils avaient sûrement un fichier.
Mais le problème, c'est que ça s'entend et surtout ça se voit parce que les séquences de dialogue sont filmées en plan contre plan. En fait, tu vois un personnage puis tu vois l'autre. Champ contre champ. Alors le champ contre champ, heureusement, est réussi. Mais
il brise pas la règle des 180 degrés.
Non, il brise
ça
pas.
Va,
ça va. Mais par contre, étant donné que tu dois choisir tes dialogues, tu sens que les dialogues ont été écrits, que le choix a été rajouté quasiment au dernier moment. Enfin, c'est ça le problème. L'univers est génial, le gameplay est génial, il y a vraiment de quoi se plonger dedans, mais dès que la narration reprend en mode dialogue, ça foire. Et c'est pire parce que c'est aussi le cas dans des cinématiques. Et là, c'est purement une question d'écriture. C'est-à-dire que les personnages, parfois, quand ils se parlent, on sent que les deux personnages ont plus une utilité et un rôle qu'une âme. Et c'est un peu gênant, c'est-à-dire qu'on sent que oui, je suis machin, je suis truc, je suis le marchand un peu rigolo, voilà. Oui, je suis l'héroïne, machin. Enfin, et à un moment, au tout début, l'héroïne a un mentor. Et vous savez tous ce qui arrive au mentor.
Il meurt.
Voilà.
Et il le trahit.
Voilà, oui. Non, il meurt. Enfin, c'est quand le mec apparaît, tu sens, oui, lui, il va mourir. Et bien sûr, c'est ce qui arrive. C'est pas du spoil, vous le verrez à des kilomètres. Mais, malgré tout, je recommande vraiment ce jeu. Parce que ça faisait longtemps qu'un open world m'avait pas pris comme ça. Vraiment par les tripes, par son univers, par son ambiance. Et même, malgré tout, par son écriture. J'ai tendance à penser que pour moi, à titre personnel, il m'a plus attiré que Zelda. C'est-à-dire que Zelda, j'avais un souci, c'est que t'es un peu tout seul dans Zelda et qu'il y a un peu une narration qui est très légère et tu la construis au fur et à mesure. Là, le jeu, moi, c'est plus un jeu pour moi parce que le jeu te prend par la main. Il te dit clairement, il faut aller là. T'es jamais perdu. Il y a des tas de petits trucs comme ça. Et voilà, c'est un jeu magnifique, plein de bonnes idées, qui a des petits défauts d'écriture, qui a des petits défauts sonores. En tout cas au niveau des dialogues, mais je le recommande vraiment, et surtout que maintenant il est trouvable plus très très cher, surtout si vous êtes PS Plus. Donc voilà, Horizon Zero Dawn, je remercie vraiment Johnny de m'avoir un peu forcé, parce qu'au début je pensais
sur
PS4, c'est une exclusivité PS4.
C'est un jeu Guerrilla Games, donc un studio interne.
Et j'ai pas testé le DLC non plus, mais en tout cas je serais très très preneur d'un 2, où ça fait plaisir de voir une nouvelle licence en fait qui arrive aussi bien.
Du coup le 2 il s'appellerait Horizon One Down.
Voilà, Horizon One Down, ou One Up, tu vois. C'est...
Ouais.
Ou Level Up.
Mais voilà, vraiment.
Bah non, parce que Down, c'est l'aube. Si donc avez... One Evening, alors.
Si vous avez une PS4, donnez la chance à ce jeu. Voilà, parce qu'il ça sent, il l'a.
Noon.
Il l'a pas eu vraiment à sa sortie, je pense.
Ah, si, si, si. En fait, le truc, c'est qu'il a bien marché pour les possesseurs de PS4 qui voulaient pas foutre 400 balles dans une Switch pour avoir
le mérite.
Les rageux, quoi.
Il le mérite. Voilà. Il le mérite. Il le mérite vraiment. Et non, et puis, ne serait-ce que pour les quelques idées de l'idée de mélange de, entre préhistorique et machine, c'est assez dingue.
Moi, je m'attendais pas du tout à ce que Guerrilla Games fasse un jeu comme ça parce que les Killzone m'ont endormi en fait.
Oui, là, c'est tout l'inverse en fait. C'est vraiment tout l'inverse. Et je finis vraiment là-dessus. C'est que moi, ce que je trouve génial, c'est que avec la bonne approche, la bonne stratégie, on peut one-shotter des machines alors qu'on a l'arme de base. Et voilà, le jeu récompense vraiment pas forcément la prise de risque, mais il récompense vraiment un peu le skill et tout. Enfin, c'est un jeu très intelligent, très bien pensé, qui se foire un peu dans son exécution, mais bon, on lui pardonne parce que c'est que ça reste qu'un premier jeu. Et surtout, bah, il y a tellement de choses dedans que voilà, ça mérite largement son prix.
Bah, c'est pas leur premier jeu, mais c'est le premier de monde ouvert série, qu'ils ont fait. Et voilà.
C'est une bonne utilisation du monde ouvert.
C'est, moi, j'avais un peu peur que ce soit un autre Ubisoft The Game.
Voilà, ça n'est pas du tout.
Bah oui, d'accord, ok. Parce que bon, Ubisoft The Game, voilà quoi.
Sauter du haut d'un pilier ou un truc comme ça dans une...
Non, mais là, tu meurs.
Ouais.
Bon, très... Oui, vas-y, termine.
Dernier truc, ce qui est énervant aussi, c'est l'héroïne qui fait « Je dois être discrète », mais qui parle quand même.
Il ouais. y a quelqu'un Oh là là, j'espère qu'ils ne m'ont pas entendu bon, j'espère que Senpai m'a
très
remarqué.
Très bien, on a eu un gros morceau jeu vidéo.
Ouais.
On a beaucoup parlé. Et Shuten, tu vas parler de série.
Oui.
Et
là, j'ai pas trois pages.
Ce que tu as à dire, ouais, parce que là, c'est parti.
Did you know the human eye can see more shades of green than any other color? When you figure out the answer to my question, then you'll have the answer to yours.
Ah, des bonnes séries comme j'aime.
Ouais, alors...
Il y a de la bagarre.
Il y a de la bagarre, il y a des flingues, il y a des gens...
Il y a des pampans.
Il y a des filles bien gaulées et tout.
Moi, je pensais que tu aurais mis le générique d'Hawaii Five-O...
Mais justement, ça va dépendre quoi je commence.
Alors, bon, déjà, je vais resituer un peu le truc.
Vas-y, vas-y.
Donc, là, il y a une espèce de vent, de reboot un petit peu des anciennes gloires. Ça avait déjà commencé avec K2000, où il y avait eu.
Knight Rider, c'était de la merde.
Voilà, Knight Rider, où ils avaient
c'était
fait
très bien pour l'époque.
Non, mais justement, ils avaient fait un remake de K2000, dans les années 2000, justement.
Avec des motos, il y avait des motos.
Non, il y avait une autre voiture, mais c'était pas la même voiture. Enfin, c'était pas terrible. Et du coup peut-être refroidi en fait par l'accueil un petit peu pas terrible, les chaînes de télé ont un petit peu repoussé le truc. Et puis alors dans les années 2010, du coup on est en 2018, on a la saison 8, donc je pense oui en 2010, ouais. CBS a rebooté Hawaii 5-0, donc connu chez nous dans Hawaii Police d'État. Donc Hawaii 5-0, qui est un reboot un peu suite de Hawaii Police d'État. Alors pas vraiment parce que le héros c'est toujours Mac Garrett qui est supposé être le fils du héros de la première série, mais pas vraiment parce que en fait non et que on s'en fout et puis que c'est pas grave.
Oui.
Parce qu'on retrouve les mêmes noms de personnages en fait. T'as Chin O'Kelly, t'as Duke, t'as d'autres persos qui sont pas tout à fait les mêmes qu'à l'époque. Mais en gros, ils ont remodernisé un petit peu la série.
Sponsorisée par Microsoft.
Ouais, la série complètement sponsorisée par Microsoft.
Les mecs,
ils ont des Surface, ils ont des Windows Phone qui marchent dans la jungle.
Et ça marche.
Ben oui, mais ils ont des Windows Phone qui marchent dans la jungle. C'est un truc de fou. Ils utilisent Skype tout le temps. Enfin. C'est sponsorisé par Subway. C'est sponsorisé par. Alors non, Subway c'est un truc spécial. J'en parlerai après. C'est sponsorisé par Chevrolet aussi. Toutes les bagnoles c'est des Chevrolet.
Et par le syndicat Alliance aussi.
Pas vraiment. Alors, bon, je vais en reparler aussi de ça. Du coup, donc l'histoire, c'est que on a le héros, c'est Mac Garrett, qui est un ancien Navy SEALs, qui arrive à Hawaï parce que son père a été kidnappé par Spike de Buffy.
James Marsters.
Voilà, James Marsters, et donc il le tue en fait, voilà. James Marsters tue son père. Enfin, c'est le début.
Oui.
Et donc il est obligé de faire équipe avec Danny Williams, donc qui est un flic de la côte est d'ailleurs, comme John McClane, sauf que lui, il vient du New Jersey. Et il aime pas trop Hawaï, en fait. Il a été mis là, donc il a toujours sa chemise et cravate et tout, alors qu'il fait 40 degrés et que, mais non, mais vas-y, arrête, porte une chemise. Et en fait, ils fondent une espèce de task force qu'a les coups des franches. Qui peut faire un peu ce qu'ils veulent sur l'île pour parce que les méchants ils sont très méchants et si on reste des policiers normaux eh ben on peut pas trop tuer des méchants et on est obligé de faire de la paperasse et c'est chiant. Donc le gouverneur de l'île il fait OK banco on vend la caravane, on vous fait tout un truc avec des super locaux dans machin avec des murs en verre et tout
une des scientifique qui voyage dans le temps voilà. Dans notre série.
Oui, Hiro. Il y a le gros de Lost aussi. Enfin le gros, il y a Hurley de Lost.
Il y a Hurley, il y a Terry O'Quinn et il y a Daniel Day-Kim de Lost. Parce qu'en fait,
il y a Daniel Day-Kim,
comme Lost
voilà.
est tourné à Hawaï, bah, maintenant c'est leur résidence principale, voilà. Bah, ils tournent à Hawaï. Hein.
T'as aussi.
Il y a un dinosaure
voilà,
aussi.
Et t'as une Cylon aussi, t'as comment.
Numéro ouais. 5 Non.
C'est Athéna. Dans... Non, là. Pas Athéna, de... voilà, la bridée de Battlestar Galactica.
Oh là là.
Mais je sais plus son nom, c'est voilà, c'est poirat, facile.
C'est Boomer.
Heureusement, Boomer, voilà, c'est Boomer dans.
Ah, tu fais ça et il fait à la bridée.
Bah oui, mais écoute. Oui, parce qu'en fait. Alors, et donc, il forme une équipe qui accomplit des missions un petit peu bourrines, quoi. Genre, le mec qui tire à la Gatling en plein centre-ville de Oahu, bah, on va aller lui péter la gueule. Et moi, je regarde cette série et je me dis, mais. Alors, je la regarde absolument sans aucune honte. Je trouve ça vraiment. Enfin, je dis pas que c'est génial. Je la trouve. C'est rigolo, quoi. Ça fait le boulot le samedi soir.
C'est d'une efficacité hallucinante.
Alors, c'est efficace, mais je peux pas m'empêcher de réfléchir en me disant. En fait, c'est des personnages joueurs. C'est un MJ qui a un peu perdu le contrôle de sa partie de jeu de rôle. Parce que tu pourrais presque faire les feuilles de personnages. C'est-à-dire que t'as un des personnages, il a la compétence surf. Parce qu'on est à Hawaï et que le surf c'est important, il l'a foutu à 5. Et pendant 3 ou 4 saisons, il est en train de dire ouais mais j'ai cette compétence là, elle sert jamais et tout. Et le MJ fait ouais mais non, on peut pas faire juste un épisode où il se passe que dans l'humaine du surf. Allez, vas-y, on fait. Et en fait, il y a un épisode où ils le font. C'est un épisode où c'est juste axé sur ce personnage là qui fait du surf.
Et dans une confrérie de surf.
Voilà, non, c'est un truc comme ça. C'est un peu comme comment il s'appelle le film là avec
Point Break.
Ouais, Point Break avec des surfeurs méchants et tout. Enfin, c'est énorme. T'en as un. Ouais, j'ai pris 3 points en pilotage d'avion, mais ça sert jamais. Ah bah attends, on a un mec qui est mort bizarrement dans une compétition aérienne, alors tu vas le remplacer et tout. Et pendant ce temps-là, les autres ils font les équipes.
Ils s'en passent des trucs en plus dans cette ville.
Mais oui, alors d'un côté, grand, j'étais là en train de me dire, mais alors c'est intégralement tourné à Hawaï, donc c'est super beau. D'un côté, ça vend la ville, enfin ça vend les îles quoi. Tu te dis ouais, c'est hyper varié et tout, bon c'est tropical. Mais d'un autre côté, ça vend pas tant que ça parce que c'est hyper dangereux. Hein. Faut reconnaître, t'as des explosions tout le temps, toutes les semaines il y a un massacre dans une bijouterie chinoise, je sais pas quoi. Mais bon après ça c'est les aléas du.
Oui c'est comme l'instit, hein, bizarrement quand dans toutes les classes où il va il y a un problème.
Non mais ça c'est normal, dans toutes les classes il y a des problèmes. Alors ça c'est le truc. Le truc c'est que les profs ne veulent pas les régler parce que c'est trop d'emmerde, hein, donc voilà et que le prof qui est passage, bah lui il a que ça à foutre et de toute façon il verra plus personne après, il aura
et
pas
c'est toujours
à gérer...
au camping paradis qu'il y a des problèmes aussi.
Il aura pas à gérer les conséquences de la merde qu'il a laissé.
Pour alors FFO, le truc c'est aussi le duo qui marche vachement bien, le duo.
Oui, le duo entre Danny Williams et McGarrett marche très bien parce que
je suis pas du tout série américaine mais putain que c'est drôle, hein.
C'est-à-dire que c'est un buddy movie qui dure depuis 8 ans en fait et
j'ai envie de regarder du coup.
Mais ouais, alors il y a
aucun moment ils couchent ensemble quoi.
Il y a des alors sans spoiler, il y en a un qui donne son rein à l'autre, enfin voilà, il y a des... Bon, là, je spoil carrément, en fait. Il y a une relation vraiment très... Bah, c'est du brofist et tout, etc. Ouais. Hein, c'est rigolo. Mais au bout d'un moment, je me dis, mais bon, les mecs, ils ont les coups des franches. Ils ont carte blanche pour faire ce qu'ils veulent sur l'île. Et à un moment donné, t'as tout un arc scénaristique où t'as des mecs du continent, du FBI, qui sont là en train de dire, quand même, Hawaii Five-O, là... faudrait peut-être aller vérifier un petit peu ce qu'ils font, parce qu'ils font un peu de la merde, quoi. Et c'est et effectivement, quoi, les mecs, ils ont une salle de torture personnalisée, et tout, ils en ont rien à foutre, quoi. Hein. Les avocats, mais tu peux pas avoir d'avocat, mec, personne sait que t'es là, etc. Ils torturent les mecs, ils font plein de trucs que la loi réprouve, quoi. Et donc les mecs du FBI, ils arrivent, ils infiltrent quelqu'un dans leur équipe en faisant « Ouais, alors, quand même, faites-nous un rapport sur ce qu'ils font, et puis remontez le truc. » Ces mecs-là sont perçus comme des méchants. C'est-à-dire les gars du côté humain un peu quoi du truc, en disant que vous allez peut-être un petit peu loin, donc dans le scénario du truc ils sont perçus comme des méchants. Et pour le coup après coup bon il y a un rebondissement scénaristique qui fait que ils forment un peu la même équipe à Los Angeles. Je sais pas s'il y aura un spin-off, mais bon voilà, parce que Chin-Ho il part avec la blonde c'est à la fin de la saison 7 en fait, il y a plusieurs
NCIS Los Angeles, ça se trouve.
Ouais non, NCIS Los Angeles c'est vraiment de la merde.
C'est vraiment de la merde.
Par contre NCIS Nouvelle-Orléans, j'aime bien. Ah. Voilà, on en reparlera une autre fois.
Et donc c'est là qu'arrive MacGyver alors.
Voilà, et c'est là qu'arrive MacGyver. Donc MacGyver, une autre série
une autre série par exemple celle-ci.
Ça c'est le nouveau générique ou
Diana Jones.
Alors MacGyver, donc
c'est plus Tomb Raider.
Ouais, alors
je préférais l'ancien générique.
Moi j'aime bien celui-là. En fait,
mais toi t'as toujours été un peu réac.
C'est le truc, c'est
non,
que
je suis vieux.
MacGyver, en fait, j'étais là, ah ouais, mais quand même MacGyver, il est jeune, c'est un petit blondinet, gna 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 et tout. Puis au bout d'un moment, je me dis, ouais, mais les épisodes de MacGyver que j'ai revus dernièrement sur TV Brace, putain, c'était long, il se passait rien. T'attends pendant tout l'épisode qu'il fabrique le truc, qu'il fait que tu regardes l'épisode pour qu'il fabrique le truc.
Tu regardes des épisodes sur
la
sur
recette
TV
du
Brace.
Jour.
Oui, je regarde des épisodes sur TV Brace dans mes moments de voilà, parce que MacGyver, ça faisait longtemps que j'avais pas vu, puis je m'étais dit, tiens, avec le reboot qui arrive bientôt, je vais pouvoir regarder.
Columbo.
Non, Columbo, c'est David le samedi soir. Voilà.
Donc je regardais MacGyver comme tout le monde. Oui, comme beaucoup de gens quand j'étais petit, effectivement, c'était, j'attendais à chaque fois dans chaque épisode le moment où il va bricoler un truc absolument invraisemblable avec ce qu'il a sous la main.
Mais
et
ça marche.
Et ça marche, et ça marche, et c'était à peu près crédible. Et dans la nouvelle série, ben, t'attends pas tout l'épisode qu'il fabrique un truc, parce qu'il fabrique des trucs toutes les 10 minutes, en fait, donc quasiment. C'est vachement bien, en fait, parce que du coup, le mec, il est toujours... Il est jamais pris de court. Alors, on a... Faut pas regarder la série en se disant c'est un remake de l'ancienne série. C'est vraiment complètement différent. À part... deux personnages, t'as Jack Dalton et
celui qui est joué par l'ancien des experts là.
Voilà, donc Jack Dalton, il est joué par George Yates, donc qui est un ancien des experts. D'ailleurs, il y a une pique à ça à un moment donné où ils sont sur une scène de crime et puis ah non, les mecs du labo, c'est que des branleurs et tout. Enfin, c'est assez rigolo. Ouais, il fait une pique à son propre personnage dans une autre série. Non, mais c'est mieux amené dans la série. Voilà. Et Lucas Steele, donc qui joue MacGyver. Alors. Le truc, c'est que je savais pas que les deux séries étaient produites par CBS. Ouais. Jusqu'à ce qu'il y ait un épisode de Hawaii 5.0 ou un crossover.
Pas une crossover, enfin un backdoor crossover.
Pas vraiment, en fait.
Pour lancer la série.
Oui, c'est ça, mais en fait, t'as pas vraiment le crossover. C'est-à-dire que t'as un épisode de Hawaii 5.0 où t'as Chin-Ho Kelly et sa cousine qui reviennent en faisant ah là là, hein, le mec de la Fondation Phoenix, il nous a mis un des. Comment il s'appelle déjà? Ah oui, MacGyver. Et en fait, dans la version française.
Merde, univers partagé, quoi.
Mais oui, complètement univers partagé, c'est trop bien. Et nous, on a dû attendre peut-être 2 ans avant d'avoir l'épisode de MacGyver où ils vont aider les mecs de Hawaii 5.0 dans un truc. Cool. Voilà, donc la série MacGyver, elle est plutôt sympa. T'as Pete Thornton, donc qui était le gros chauve qui était joué par Dan Aykroyd, il me semble.
Dan Aykroyd, ouais.
Et qui est là aussi, sauf que c'est Patricia Thornton et c'est une madame et qui est pas grosse du coup et qui est pas chauve non plus. Et en fait, il y a un méga twist au sujet de son personnage que je ne vais pas vous spoiler.
Ah non, je l'ai regardé du coup.
Bah oui.
Où est-ce qu'on peut trouver cette série?
Alors cette série diffusée sur M6.
Oui.
Le vendredi soir. Et alors dans le grand n'importe quoi qui caractérise la télévision française, ils ont diffusé la saison 1 d'affilée en raison de 2 épisodes par semaine. Et à la fin de la saison 1, au lieu de se dire bon ben on va attendre 1 an et puis on va diffuser la saison 2, non, ils ont diffusé la saison 2 direct après. Donc là en ce moment on est à la saison 2, épisode 8 et 9. Oui, j'oubliais, il y a un autre personnage qui est récurrent. Qui revient de, enfin, qui est un peu le même personnage, c'est Murdoch, qui était le personnage
méchant qui me faisait peur quand j'étais petit.
Oui,
Mac.
Voilà, c'est un peu, là c'est le même principe, sauf qu'il est vraiment, il fait vraiment peur.
Moi, il me faisait penser à Freddy Krueger.
Ouais, parce qu'il a le visage brûlé à un moment donné dans la série, mais il se déguise et tout. Là c'est pareil en fait, il se déguise, il est un peu là, une espèce de présence un petit peu tout le temps. L'épisode où il est introduit, il est très très bien. Mais globalement,
c'est dégueulasse.
Oui.
Ah ben non, moi je l'ai pas vu.
Non
comme
non,
ça.
Mais voilà, vous le voyez comme vous voulez.
Laissez les grands parler.
Voilà, tout à fait. Il y a des nouveaux personnages. Alors c'est un peu le même principe que Hawaii 5.0, c'est-à-dire que la série de base en fait c'était quasiment MacGyver tout seul avec parfois un ou deux sidekicks, dont Jack Dalton. Voilà, sauf que là maintenant, bon, bah, on s'est dit, c'est pareil en fait, c'est un MJ avec ses personnages joueurs, et puis donc, bah les gars, aujourd'hui, on va faire au lieu de faire AoE 5.0, vous ferez des nouveaux personnages et puis on joue à MacGyver. Et puis à un moment donné, il y avait les joueurs qui jouaient les mecs de AoE 5.0, ils étaient dispo, mais pas les autres gars de l'équipe de MacGyver, donc du coup, ils ont fait un crossover et puis voilà. Donc c'est
En même temps, le jeu de rôle, c'est parfait pour les dimanches, quoi.
Oui, bah voilà. Sauf que, alors, t'as vraiment des moments où tu te dis, ouais, ils ont perdu le fil, quoi. Et c'est super drôle parce que, enfin, c'est pas tant qu'ils ont perdu le fil, c'est que le MJ, le maître de jeu, a perdu ses joueurs. Ils font n'importe quoi. Et ils disent non mais si parce que alors attends avec la compétence bricolage je peux fabriquer un porte-avions nucléaire avec un coffre-fort et trois bouts de colle mais non tu peux pas réussite critique qu'est-ce que tu dis de ça ok
il est en or massif
et voilà c'est carrément ça quoi c'est le gars il fait ses jets de trouver objet caché bricolage à fond la caisse et à côté de ça bah il respecte un peu le personnage c'est-à-dire qu'il utilise pas d'armes il aime pas les armes en fait hein. c'est clairement ça même s'il était dans l'armée. Alors c'est un petit peu le côté un peu bizarre de ça, c'est que comment tu peux aller dans l'armée si t'as jamais utilisé de flingue, c'est pas possible. Mais bon, passons.
C'était infirmière.
Alors il était pas infirmier, il était dans le génie en fait. Oui. Enfin, voilà, donc c'était voilà. Alors la Fondation Phoenix existe toujours, sauf que donc c'était là où il travaille en fait, MacGyver. Sauf que là c'est un think tank un laboratoire d'idées
proche d'Obama
donc ils sont la couverture c'est que lui il est dans un think tank et Jack Dalton on sait pas trop qu'est-ce que c'est sa couverture en fait parce que c'est juste un débile avec des flingues voilà c'est pareil c'est comme AoE 5.0 ça se regarde absolument sans déplaisir c'est pas une série géniale c'est pas nul mais ça fera pas date, je pense
c'est
pas.
Efficace.
C'est efficace, c'est comme AoE 5.0, c'est exactement ça. Tu regardes l'épisode, tu te dis c'est n'importe quoi, mais tu regardes les 40 minutes quand même.
Ah, puis même t'accroches, t'as envie de savoir ce qui se passe.
Mais t'as envie de savoir ce qui va se passer et tu t'accroches au personnage.
Le jeu de Just Cause en fait. Le jeu de Just Cause, tu vois, tu t'en fous, c'est irréaliste au possible, oui. C'est juste là pour être côté.
Il y a un scénar, mais tu t'en fous.
Oui, voilà. Tu t'en fous pas totalement en fait.
Non,
c'est
parce
juste que
il suit quand même.
C'est classe et efficace. Voilà,
voilà c'est ça. C'est classe et efficace, c'est CBS. Ça vaut pas une série un petit peu plus travaillée comme Gotham, comme Fargo.
Ouais, mais
voilà.
C'est juste son truc en fait.
Mais voilà, c'est dans le truc, ça le fait très bien.
Tout à l'heure tu parlais de MJ qui aurait perdu le contrôle. Non, il a pas perdu le contrôle, c'est juste qu'il
s'amuse.
Voilà, il s'amuse. Maintenant il a laissé tomber.
Tuer
le grand méchant, ils s'en foutent maintenant.
Ouais, c'est ça. Alors t'as Mark Dacascos dans AoE 5.0 aussi.
Qui joue dans Pacte des Loups.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et il joue un grand méchant dans AoE 5.0.
Il a fait grand-chose depuis.
Qui est le demi-frère de Mac Garrett. Enfin, c'est un truc. Il y a toute une histoire assez. Il y a toute une méta. Tout
c'est
un fil rouge et tout, etc.
Une histoire de famille au final.
Ouais, c'est ça.
Soit la mère, elle est méchante.
Comme dans Joséphine Ange Gardien.
Alors, j'ai cru voir aussi que Michael DeBoer, donc celui qui jouait Murdoch dans la première série MacGyver, va apparaître dans la nouvelle. En tant que mentor. Du nouveau Murdoch. Donc il y a une espèce de continuité. Par contre, Richard Dean Anderson n'apparaîtra pas parce qu'il a pas envie et que il est très bien là où il est, que laissez-le tranquille bordel.
Il est pas mort.
Il est pas très en forme non plus.
Non,
il est planté sur une planète, on sait pas où.
Problème de thyroïde.
Ouais, non, bah, il va pas très bien, ouais, effectivement.
Parce qu'on fait aussi dans le médical.
On fait aussi dans le médical. D'ailleurs, parlons de urgence.
C'est pas un lupus.
Alors j'ai lu aussi qu'il y avait Zach Braff qui sortait une nouvelle série.
Ouais, et Daniel Radcliffe aussi.
Ah ouais,
ouais. Avec Steve Buscemi.
Oh, bref. Trop bien. Daniel Radcliffe qui jouait très très bien l'homme couteau suisse.
Oui, j'ai pas trop aimé le film. Bon, bref. on a déjà beaucoup
parlé.
Tout à fait. Mais ouais, moi je vais regarder MacGyver.
Ouais, ouais. Non,
Hawaii Five-O, je te le conseille aussi.
Ouais.
Alors, il y a 8 saisons, faut pas tout regarder, honnêtement. T'as quelques épisodes. Alors, t'as des invités.
Je peux faire des
dernières choses.
Alors, j'ai vu pas mal, t'as pas mal d'invités. Vraiment, tu dis, ah ouais, tiens, il y a lui, machin. T'as un épisode où t'as le mec qui jouait dans Robocop. Qui joue à Robocop d'ailleurs, qui joue Alex Murphy, qui joue un tueur à gages, qui est exceptionnel en fait, hein, qui a une main robot, enfin voilà. T'as, je sais plus comment il s'appelle, un mec qui jouait dans Expandables, un grand chauve. Blanc.
Lundgren.
Non, qui jouait les méchants, alors qui a les oreilles en chou-fleur. Il apparaît dans plusieurs épisodes aussi. T'as une espèce de sous-intrigue avec le restaurateur, le mec qui a un food truck. T'as tout son truc qui apparaît petit à petit. Donc au début, le mec, il a juste un food truck, et puis au bout d'un moment, il a des hélicoptères pour faire le tour de l'île et tout. Enfin, t'as tout un truc, toute une progression. Vraiment, c'est pas juste. Alors, ce qui était un peu ce que je reprochais avec les séries des années 70-80, c'était que chaque épisode. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait été l'évolution des séries télé, hein. C'est que chaque épisode était indépendant et tout ce qui s'y passait était inclus dans
l'épisode. Là, il y a du fil rouge.
Voilà, là, il y a du fil rouge. Encore que dans MacGyver, il y avait un petit fil rouge parce que tu avais le personnage de Terry Hatcher qui revenait souvent, qui évoluait un petit peu, et Murdoch, évidemment. Mais par exemple, tu regardes un épisode de l'Agence Touriste, que tu regardes le premier épisode ou le dernier, les personnages n'ont pas évolué du tout.
C'est toujours,
voilà, les mecs qui fabriquent un truc en tôle ondulée à la fin pour éviter des trucs. D'ailleurs, ils n'ont pas fait une nouvelle version de l'Agence Touriste.
Je ne sais pas, mais tu sais que je vais devoir te couper la parole pour continuer l'émission. On est déjà à une heure et quart d'émission.
Mais oui, mais on s'écoute parler.
Mais Toutan, il fait « Oh, je vous préviens, il faut que je parte tôt ce soir. »
Ouais, bah non, en fait, on s'en fout.
Bah oui,
on
s'en fout. Ah bah bon, cool. On va quand même terminer l'émission avec le truc en plus. J'en ai même pas. Je vais vous laisser.
Moi, j'en ai un.
Moi, j'en ai un aussi.
Parfait, on se retrouve après ça.
Je crois que tu avais trouvé tout à l'heure.
Non, j'ai pas.
There is one more thing. 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 But there is one more thing. But we've got one more thing.
Bon, je vais laisser Shoutan reprendre son souffle.
Oui, vas-y. Parce que
je
me suis envolé.
Oui, t'as fait une envolée lyrique, là.
Du coup, moi, je vais parler d'un bouquin qui s'appelle « Quand le manga réinvente les grands classiques de la peinture ».
Approuvé par numéro 1.
Approuvé. Alors non, justement.
Oui,
ça fait pour les mecs sur Twitter, c'est-à-dire que les connards qui servent de rédacteur numéro 1, même rédac chef, je crois, ont pris ce livre en mode « Vous rendez compte, les Japonais, ils ont la prétention de faire les grandes œuvres classiques et tout ».
Ils l'ont dit comme ça à l'écrit.
Moi je l'ai lu comme ça en tout cas. Tu vois, ça ressemblait vraiment à ça, c'était du mépris absolument hallucinant. Et du coup, ce qui est bien, parce que ça nous a permis de faire découvrir ce livre dont j'avais aucune idée qu'il sortait avant qu'ils en parlent. En réalité, c'est un livre qui est sorti d'abord au Japon et puis qui est sorti. C'est une adaptation française et je vais le faire tourner. Et c'est un très bon livre en fait. C'est vraiment un très bon livre. C'est-à-dire, vous avez d'un côté, le livre commence par vous présenter les grands courants de la peinture, puis vous présente les œuvres, et vous avez sur la page de droite une petite illustration de l'œuvre originale, et à gauche le dessin fait par l'artiste, et à la fin, il y a la liste des illustrateurs avec un petit mot de chacun d'entre eux. C'est un livre qui coûte 17€.
Il est pas cher.
Il est pas cher, hein. Et au final, l'impression est impeccable. Les dessins, alors bon, moi je suis pas objectif sur le coup, mais je trouve vraiment que beaucoup de dessins sont absolument somptueux, et j'adore tout simplement cette idée de dire on va prendre un truc et puis on va donner ça à des gens dont c'est pas du tout la culture et ils en font un peu ce qu'ils veulent. Il y en a qui tentent de coller au tableau, il y en a qui tentent de pas du tout le faire, qui font ça à leur sauce. Tout n'est pas réussi, mais il y a vraiment tout le monde y trouvera son compte. Et surtout, ça permet de découvrir un petit peu des artistes. C'est un petit peu comme si il y a un site japonais qui s'appelle Pixiv, qui est un peu l'équivalent de DeviantArt. Pixiv sort chaque année des compiles des dessins d'artistes amateurs. Et là, je sais pas si c'est des amateurs ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est un très bon bouquin. Ça s'appelle « Quand le manga réinvente la peinture ». Et vraiment, c'est absolument fantastique. Et si ça a du succès, ça permet... je sais pas, je pense pas, parce que c'est une édition unique. Si ça a du succès, en tout cas, ça fera chier les cons. Et c'est déjà pas plus mal.
Merci Renaud.
Non mais c'est vrai. Au bout d'un moment, le côté, vous rendez compte, les Japonais, ils ont osé faire ça. J'avais l'impression de revenir à Dorothée, quoi. Enfin,
ça en dit long
sur la tolérance des équipes de Numérama. Hein,
ce que je trouve assez énorme, c'était le cherry picking. En fait, ils avaient pris vraiment les trucs les plus caricaturaux du.
De quoi le cherry?
Le cherry picking, c'est tu choisis les cerises.
Ah,
en
oui,
fait, c'est le voilà, c'est ce qui est beaucoup utilisé dans les micro trottoirs, c'est pour dire oh là là, les gens sont cons, écoutez tout ça. Alors que le mec, il a enregistré 150 personnes, mais il en a gardé 3 qui disaient de la merde. Donc là, c'est un peu pareil. Enfin, pas de la merde du coup, mais vraiment, ils ont gardé le côté...
Non, mais c'est vraiment le côté où on touche pas à nos classiques.
Voilà, la laitière, c'est... regardez, ils ont fait des gros nichons. Voilà.
Oui, bon, surtout que le dessin est magnifique. Pour le coup, il colle. Le cubisme, le mec a rien...
Alors, la naissance de Vénus, il est magnifique.
Voilà, c'est...
Le printemps avec les filles en slip, bon, on pouvait éviter.
Ce qui est marrant, c'est que l'adaptation, il y a une reprise d'un tableau de Paul Gauguin. Le Paul Gauguin japonais est moins pédophile visiblement que le vrai. Hein,
La liberté guidant le peuple.
Guidant le peuple, il est magnifique, même s'il ressemble à un tome de Platinum Man, il est magnifique. Quoi.
Les femmes de Tahiti, ouais, voilà. De Gauguin.
Tu vois,
Il est pas mal.
Ouais, c'est... Voilà. Non, mais vraiment, c'est un très très bon livre quand le manga est vraiment mature.
Voilà. C'est...
Et ça m'a rappelé qu'il y a des gens qui sont encore en mode, c'est les années Dorothée, quoi. Et donc, voilà,
être aussi à manger.
Être aussi con à notre époque, c'est quand même, surtout quand on prétend faire un site un peu jeune, un peu culturel, un peu d'infos. Voilà, c'est. Voilà.
Et Lyon.
Alors moi, c'est un truc très rapide que je recommande aux gens.
Ça m'arrange.
Ouais, je peux durer plus longtemps si tu veux. Hein. Comment dire ? Alors j'ai beau avoir 38 ans, il y a toujours un truc qui me fait encore rêver et qui me fait briller les yeux, c'est regarder les fusées décoller.
Ah.
Et j'ai une passion en ce moment pour SpaceX, qui s'attaque ouais. à la conquête sur Mars, on va dire, même si c'est pas encore pour tout de suite. Les prochains lancements qui sont en direct sur YouTube.
Oui.
Donc vous cherchez la chaîne YouTube de SpaceX et vous trouverez, vous aurez des notifications en direct des lancements. C'est le 30 mars et le 2 avril. Donc il y en a un qui est fait depuis la Californie, un autre qui est fait depuis Cape Canaveral, donc le pad de lancement d'où sont partis les hommes pour la Lune. Et c'est toujours génial à regarder et encore plus quand le premier étage revient se poser.
Oui,
ça te troue le cul, mais voilà, l'autre jour, quand ils ont fait le Falcon Heavy,
voilà. Où t'as eu deux...
les deux étages, les deux boosters qui reviennent
au même moment
parce qu'ils partent en même temps, ouais, et qui se posent en même temps côte à côte. Tu vois, si vous trouvez la vidéo, allez-y, regardez, vous serez sur le cul aussi. Et voilà, franchement, moi, c'est toujours un truc que je kiffe regarder. Si j'ai une notification pendant que je fais autre chose, j'ai un deuxième écran sur le PC, je mets ça et je m'éclate.
Ouais, ça fait oublier qu'Elon Musk est un connard.
Non, c'est pas vrai.
Si, oh, totalement.
Bref, Shooten.
Bah, c'est-à-dire que c'est un chef d'entreprise américain, hein, voilà, qui a essayé de conseiller Donald Trump et puis au bout d'un moment, il est un peu con, lui.
Voilà. Petit truc
alors,
plus,
moi, je voulais juste. Ouais, rapidement. Alors, je voulais parler. On en parle.
La rédaction vous en parle.
Non, mais est-ce qu'on en parle des musiques de jeux vidéo dans les reportages?
Ah,
moi, ça me gêne énormément.
De plus en plus, ouais.
Tu parlais de Skyrim dans des reportages d'M6 ou
ouais,
de
trucs. Des trucs comme ça. Alors, moi, ça me gêne énormément parce que ça me fait sortir du truc, en fait, parce que je suis en mode blind test. Ouais. Et,
alors, ceci dit, il y a quand même du Doctor Who dans le meilleur pâtissier célébrité. Hein.
Ouais.
Donc,
ouais, alors, il y a eu du Persona 4, apparemment.
Oui.
Non, mais c'est bien. Moi, ça me fait marrer, honnêtement.
Oui, moi, ça me fait marrer aussi, mais ça me sort du truc. Et à un moment donné, j'étais là, il y avait eu un reportage, c'était sur France Info TV. C'était sur les handballeurs français.
Ah,
et ils ont foutu une musique de Final Fantasy VIII. Et ça m'a sorti du truc. J'étais là, mais putain, d'où vient cette musique et tout. et du coup, j'ai pu écouter la suite du truc. J'étais là, ah, c'est quoi cette musique? Et en fait, c'était la musique qui est à la fin du premier disque de Final Fantasy VIII. Alors, je sais plus comment ça s'appelle.
Je pense que c'est parce que c'est des stagiaires qui
mais,
ça.
Alors, pas forcément.
C'est des mecs qui ont notre âge et qui ont
une liberté voilà, de truc et qui se disent, bon, bah tiens, on va mettre ça parce que moi, ça m'a plu. Je suis. Alors. Ça me gêne, mais je suis content parce que ça fait découvrir aussi. Ouais.
Ça dépend. En fait, ça dépend comment c'est fait. Si
ça dépend comment c'est fait.
Si
voilà.
Tu mets la musique des Chocobos sur la guerre en Syrie, bon, bah. Voilà.
Non, mais sur la guerre en Syrie, ils ont le bon goût d'éviter de mettre des musiques.
Musique de l'invincibilité de Mario ou genre des trucs aussi.
Non, mais ouais, la musique de l'invincibilité de Mario sur un mec qui court entre les explosions, ce serait rigolo quand même.
Tu mets le missile qui s'écrase et là, tu mets la musique.
Non, mais ce qui pourrait être marrant, c'est qu'ils foutent la musique des Play of the Game aussi. Mais avec Hanzo.
Oh putain, c'est un vrai missile, son truc. Ah merde, c'est un vrai missile.
Voilà. Non, mais voilà, c'était vraiment ça, c'est le truc. Alors, ça m'a fait revenir ça parce qu'effectivement, Triskel en parlait d'une musique de Persona 4 dans le meilleur pâtissier
le dernier pâtissier
le seul sur Terre.
Et voilà, donc c'était rigolo en fait et je comprends très bien en fait parce qu'il y a des musiques de jeux vidéo qui correspondent parfaitement pour illustrer des choses et
moi j'attends vraiment la prochaine génération, on aura des musiques d'animé dedans.
Ah mais il y a déjà ouais. C'est moins marquant en fait, mais tu vois quand t'as le joueur du grenier qui met des musiques de Excel Saga dans ces trucs, je trouve que c'est des musiques qui vont parfaitement pour illustrer justement.
Du coup, ça pourrait être ton truc en plus, Pépé. Moi, j'ai été super content de voir le château de Fougères dans le Harry Potter. Initiative.
Bon, mais messieurs, je sais pas comment on a fait pour faire une heure la dernière fois avec vous deux, mais
bah là, on
n'était pas là, lui.
Ouais.
Et voilà, c'est de ma faute.
Merci de nous avoir écoutés. Il y avait personne sur le chat à part Gandalf. Donc bonjour Gandalf. Bonsoir Gandalf.
Bonsoir Gandalf.
Merci d'être venu. Hein. Est-ce que vous avez une petite actu, un petit Twitter à nous faire partager? Peu importe, Nemo.
@nemotaku et pour le blog nemotaku.fr, je l'ai relancé il y a.
Ça y est, t'as écrit des articles.
Je l'ai relancé il y a 2 semaines et la politique, c'est un article. En gros, dès que le dernier article est posté, j'ai 8 jours pour en poster un suivant.
Sinon, le blog.
Sinon, le blog se mettra juste avec une image de manga. Avec une de mes héroïnes préférées qui dit « Je n'aime pas les types gras ».
Oh, et donc, dis donc. Elion, tu as un petit Twitter ou peu importe à nous faire.
Alors, j'ai un Twitter, mais je m'en sers pas beaucoup.
Ouais, bon.
Et j'ai un Instagram.
Ah, oui,
où je poste mes photos et mes vidéos de prise avec mon drone.
Ouais. Ah, oui.
Et donc, vous cherchez bien plus haut, tout attaché.
Bien plus haut. Tu me donneras le lien.
Oui, ça marche.
Sinon, vous allez sur nemotaku.fr.
Shooten
Moi, je n'ai pas grand-chose. En fait, j'écris un peu pour Gameside Story.
Oui, on a entendu.
Moi aussi. D'ailleurs, il sort le bouquin, là, bientôt.
Ouais, un deuxième bouquin. Mais bon, c'est lui, hein, c'est pas nous.
Non, c'est les critiques.
Ah, oui, okay. Il sort des critiques.
Oui, il m'a demandé. Moi, on aura Gameside Story. Il sort une compilation. De ses critiques 2017, les meilleurs.
D'accord, ok. Bah, moi, il m'a pas demandé, donc ça veut dire que les films sont pas dedans.
Voilà. T'as pas fait une sélection GameSize Story, je pense.
Oui, c'est pour. Non, mais j'ai pas beaucoup écrit en 2017 aussi. Bref, oui, et donc, du coup, je fais du Twitch aussi, où je Twitch des vieux jeux vidéo.
T'as fini Alundra ?
Oui, j'ai fini Alundra.
Ouais,
putain.
Ça fait 4 mois que je te demande ça.
Presque sans tricher. Parce que juste à un moment donné où il y avait j'ai passé un temps fou devant un escalier parce que je voyais pas que c'était un escalier. Enfin bon, en fait, il y avait des trucs comme ça. C'était assez fou. Oui, donc je joue à des vieux jeux et devant des gens et ça me plaît tellement que j'ai un collègue de boulot quand j'ai joué à un vieux jeu avec lui, il m'a dit putain j'ai l'impression d'être devant un de tes Twitch. Ça m'a fait plaisir.
Moi, je Twitch aussi tous les mardis à 22h. Ouais. Ça s'appelle Rage Quit ou Double, c'est-à-dire je m'énerve facilement dans un jeu où...
C'est vrai.
Voilà, et j'ai quand même eu un collègue qui m'a dit, qui est un des rares qui connaît Twitch, qui m'a dit j'aurais pas ta patience, ce qu'on m'avait jamais dit.
Je m'y mettrais peut-être, moi. J'avais toujours une chaîne qui date depuis très longtemps, mais c'est Elion 1979, comme mon tweet. Et peut-être du KSP ou plein d'autres choses.
Oui. Bah oui, du Surviving Mars peut-être. Tant qu'à faire.
Bah carrément, ça pourrait être une bonne idée.
1h25 d'émission, vous n'avez pas un truc à vendre aussi, tant qu'à faire.
Nemo avait une Fiat Panda, je crois.
Ouais, je crois, j'ai des jeux Wii.
J'ai une Xbox pour pièces détachées.
Je vais tranquillement rapper cette émission, tu vois, terminer cette émission.
On va faire le rap.
Le rap, voilà.
Oignon, fromage.
Vous pouvez retrouver l'émission sur PodCloud, sur un Facebook obscur où il n'y a quasiment rien.
Sur
le Twitter, @carteblanchepdc. Podren, ça s'est très bien passé puisque l'émission sortira dans une semaine. C'était génial. Moi, j'ai bien bu, j'ai vu plein de gens. La Podjam était super. J'ai pris tel sujet. Bon, bref. La prochaine émission, je ne sais pas, peut-être que je vais profiter des zouzous qui arrivent pour venir à Podren pour essayer d'enregistrer une ou deux trucs. Ça va dépendre s'ils sont fatigués, je ne sais pas. On va bien voir. Merci à tous de nous avoir suivis, même si vous étiez peu,
merci.
Mais vous étiez qualitatifs.
Vous étiez les meilleurs.
Voilà. Je vous dis à la prochaine et au revoir. Au revoir, au revoir. Salut.
Bonne année.
Salut.
Ouais.
Et à bientôt. Je peux pas rajouter un dernier truc. J'ai découvert dernièrement Patch Littéraire. C'est un bot sur Twitter qui met des patchs de jeux vidéo aux grands classiques de la littérature. Ouais. Donc du coup, t'as Faust, une tragédie de Goethe, mais avec 2 nouveaux objets pour chaque faction.
C'est très drôle.
C'est hyper drôle. T'as Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, mais avec une reconnaissance des commandes de vos Kinect. Le Rouge et le Noir de Stendhal, mais avec un nouveau système de musique dynamique.